bonsoir. On va donc commencer doucement. Je dis doucement parce que je ne doute pas que la salle va continuer à se remplir. C'est donc le deuxième volet de notre série sur le thème territoire et santé. La première réunion a eu lieu ici même le 5 février au soir, où nous avons eu deux intervenants qui ont développé les principes de cette association. Donc Samuel Arlot, qui est maître de conférence à la faculté de géographie, nous a parlé de la notion de territoire, a situé un peu cette notion dans son contexte, ou plutôt dans ses contextes. Et puis Paul Le Chuga, qui est médecin inspecteur régional de santé, nous a parlé de l'association Territoire et Santé, déclinée sous plusieurs aspects, puisqu'il est à la fois médecin inspecteur régional et ancien médecin de santé publique en Afrique. Donc il avait deux approches tout à fait intéressantes pour illustrer cette problématique. Aujourd'hui, donc, on continue sur cette même thématique en l'abordant sur le plan des inégalités territoriales de santé. Et on va également le voir en deux parties. Une première partie introductive qui va être développée par M. Gilles Kerr, qui est maître de conférence en économie à la faculté de droit, et qui va nous parler donc de ce que sont les inégalités de santé. Et puis ensuite, on aura une table ronde où différents intervenants vont aborder la problématique des réponses des territoires à cette situation d'inégalité, dans la mesure où sur un territoire, il y a un centre, mais il y a aussi une périphérie, et que quand on est en périphérie d'un territoire de santé, la manière d'aborder les questions n'est pas la même que quand on est au centre. Et donc, on va voir différentes expériences. Tout d'abord, ce sera Roland Bex, qui est donc à côté de moi pour l'instant, qui était président du conseil d'administration de l'hôpital de Saint-Jean-d'Angély, qui a été confronté à la nécessité d'aider un hôpital à survivre dans différents contextes. Ensuite, Dominique Pacrot, qui est en face de moi, abordera la question des, en tant qu'élu local dans le Nord Vienne, dans le Nord de Sèvres, pardon, Nord Vienne, j'annexe le Nord de Sèvres, la question vue d'un élu. Le docteur Tavilien, Christian Tavilien, qui est chirurgien et président de la commission médicale d'établissement de l'hôpital de Montmorillon, nous parlera de la manière dont un hôpital situé dans une zone peu peuplée peut à la fois servir d'hôpital relais pour des populations plus éloignées et monter des partenariats tout à fait intéressants et dynamiques avec l'hôpital centre. Et puis Martine Daban, qui est conseillère régionale, nous parlera de la manière dont, au niveau de la région Poitou-Charentes, on peut aborder cette question d'inégalité des territoires au regard de la santé et des expériences innovantes qui peuvent être soutenues et encouragées. Et puis donc, après l'exposé de Gilles Kerr, puis la table ronde, on pourra discuter. Bon, si bien sûr il y a des questions immédiates après l'exposé de Gilles Kerr, on pourra leur consacrer 5-10 minutes. Et en principe, on arrête la réunion vers 22h45. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Gilles Kerr.
Donc, bonsoir. Alors, donc, je suis bien économiste et j'ai participé à un programme de recherche de l'Université de Poitiers sur le thème justement des inégalités territoriales de santé, un programme de recherche qui regroupait des géographes, des juristes, des économistes, des gens mobiles et des sociologues. Alors, ce que je vais vous proposer ici, c'est un petit peu la façon dont les socio-économistes étudient ces inégalités territoriales. Et ce que je vais chercher à vous montrer, c'est que depuis le milieu des années 1990, la problématique d'étude de ces inégalités socio-spatiales de santé a considérablement évolué. D'abord dans le monde anglo-saxon et puis ensuite en France. Et alors qu'auparavant, on ramenait le problème des inégalités territoriales à des problèmes de différences de structure, de composition, de population, depuis justement une petite dizaine d'années, on essaye de s'interroger sur le fait de savoir s'il existe des effets spécifiques territoriaux. Si en dehors des effets de structure, en dehors de la composition sociale, des revenus, en dehors de l'âge, etc., des populations, est-ce que par hasard, il y a des effets territoriaux spécifiques? Est-ce qu'il y a des effets de terrain spécifiques? Et c'est donc ce que je vais vous proposer d'étudier ce soir. Alors, on va voir ça en cinq temps. Le premier temps, ce sera un temps un petit peu statistique, assez rapide de constat statistique des inégalités de santé en France, avec dans un deuxième temps un focus sur le Poitou-Charentes. Ensuite, je vous montrerai comment l'analyse a évolué aux États-Unis à la fin des années 90, enfin dans la seconde moitié des années 90. Et dans un quatrième temps, je vous montrerai comment ça a été transféré en France. Et puis enfin, dans un cinquième temps, j'aborderai, à mon avis, ce qui constitue le problème principal de ce type de vision quand on parle d'inégalité territoriale de santé, c'est le problème des mobilités des populations. Alors, on va donc commencer par quelques constats statistiques. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologue, je ne suis pas non plus vraiment économiste de la santé, je suis plutôt macroéconomiste de la santé. Et pour faire très, très rapide et pour faire simple, il y a quand même un indicateur ultime des inégalités de santé, c'est l'indicateur d'espérance de vie. Alors, en sachant qu'au niveau international, on préfère un autre indicateur qui est l'espérance de vie corrigée d'incapacité, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de données au niveau régional ou au niveau local sur ce type d'indicateur. Donc, je prendrai l'espérance de vie et puis un petit peu les taux de mortalité. Alors, premier constat, donc là, c'est les données les plus récentes concernant la France, donc les hommes et les femmes. Espérance de vie régionale, alors je le mets entre guillemets parce qu'on verra à la fin que derrière tout ça, il y a le problème des mobilités. Est-ce que ça a un sens de parler d'espérance de vie régionale ou locale? Alors, si on regarde donc ces deux premières cartes, on constate qu'entre la région la moins favorisée, qui est le Nord-Pas-de-Calais, et la région la plus favorisée, qui est l'Île-de-France, pour les hommes, il y a 5 ans d'écart d'espérance de vie. Et pour les femmes, toujours entre les deux mêmes régions, il y a 3 ans de différence. Deuxième constat, donc vous avez, j'espère que vous arrivez à le lire quand vous êtes au fond, donc 73,6 ans d'espérance de vie pour les hommes à la naissance pour le Nord-Pas-de-Calais, jusqu'à 78,5 pour l'Île-de-France, et puis pour les femmes, 80,5 ans au Nord-Pas-de-Calais, 84,5 en Île-de-France. Deuxième constat sur ces cartes, c'est qu'il existe une sorte de croissant favorable en termes d'espérance de vie. Ce croissant, c'est plutôt, il est plutôt sud, à part l'Île-de-France, mais on voit bien une certaine coupure entre le nord et le sud de la France. Alors, si on descend ensuite au niveau départemental, même chose, donc vous avez les espérances de vie, alors là, c'est l'année 2004. Au niveau départemental, les écarts sont encore plus forts, puisque concernant les hommes, les écarts sont de 7 ans entre le département où l'espérance de vie est la plus faible, c'est le Pas-de-Calais, et le département où l'espérance de vie la plus élevée, c'est les Hauts-de-Seine, concernant les hommes. Et pour les femmes, l'écart est de 4 ans entre les Ardennes et Paris. Alors, je ne vous ai pas mis ici, alors vous voyez déjà que l'analyse est un petit peu plus compliquée. Si vous regardez le Poitou-Charentes, dans la première carte, le Poitou-Charentes est plutôt bien placé, j'y reviendrai. Sur la seconde carte, on voit déjà apparaître des différences en Poitou-Charentes entre la Charente-Charente-Maritime et puis la Vienne-de-Sèvres. Et si on descendait à un niveau encore plus fin, si on descend au niveau, par exemple, des zones d'emploi, on constate que les différences d'espérance de vie sont encore plus fortes. Si on raisonne au niveau des zones d'emploi, on a des écarts chez les hommes qui vont entre la zone d'emploi où l'espérance de vie est la plus faible et celle où c'est la plus élevée en France. Il y a 10 ans d'écart, quand même, pour les hommes, et il y a 7 ans pour les femmes. Donc, plus on descend à un niveau fin, plus les écarts d'espérance de vie sont élevés. Alors, le symétrique de ça, c'est au niveau de la mortalité. Alors ici, j'ai pris un indice particulier qui est l'indice de mortalité prématurée, donc qui concerne les décès avant l'âge de 65 ans. Cet indice, donc, ici, s'est ramené à une base 100. Vous avez une base 100 nationale, et donc ceux qui sont en bleu clair, c'est ceux qui sont en dessous de la moyenne nationale, et ceux qui sont en bleu foncé, ils sont d'autant plus éloignés de la moyenne nationale. Ce que je voulais vous montrer juste à travers cette carte, c'est qu'il y a un très fort écart sur cette mortalité prématurée qui va du simple au double entre la région, enfin entre le département, ici c'est une carte départementale, entre le département où cet indice est le plus faible, c'est les Yvelines 81, et le département où l'indice est le plus élevé, c'est la Guyane 174. Ce qui veut donc dire que avant 65 ans, eh bien, cette mortalité prématurée est deux fois plus élevée dans le Dom Guyane que dans les Yvelines. Mais le Nord-Pas-de-Calais doit être à quelque chose comme 150. On est sur une mortalité prématurée extrêmement élevée. Alors, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'économiste, c'est d'essayer d'expliquer ces différences d'espérance de vie. Alors, la première explication, c'est la plus commune, la plus habituelle, c'est de raisonner en termes de revenus, de richesses par habitant. Alors ici, je n'ai pas choisi de prendre le PIB par habitant, j'ai pris le revenu par habitant, le revenu disponible brut, hein, c'est-à-dire le revenu des ménages, ce qu'ils ont dans la poche chaque mois pour faire face à leurs dépenses. Donc c'est revenu du travail, revenu financier, moins les impôts et les prélèvements obligatoires, plus les prestations sociales. Hein. Donc ça, ramené par habitant, et comparé à l'espérance de vie, et donc ici, c'est une carte régionale. Alors, on constate plusieurs choses. Premier élément, c'est qu'il y a deux régions exceptionnelles en France, Nord-Pas-de-Calais et Île-de-France, qui sont vraiment à l'opposé l'une de l'autre et qui se différencient très nettement des autres régions françaises. Le Nord-Pas-de-Calais, en termes de défaveur économique et défaveur en termes d'espérance de vie, et l'Île-de-France en termes de situation favorisée économiquement et en termes d'espérance de vie. Donc on a deux régions où le lien revenu-espérance de vie paraît assez clair et assez simple. Par contre, après, sur les 20 autres régions, alors là, je vous avais juste les régions métropolitaines. Sur ces 20 régions, on a un amas, on a un groupe qui est assez indifférencié, et on constate que là, le lien revenu-espérance de vie n'a quasiment aucun sens. N'a aucun sens, je vous ai juste mis certaines régions, hein, celles qui étaient un petit peu aux extrémités de ce nuage, et n'a aucun sens, c'est les deux flèches, entre la Picardie et le Midi-Pyrénées, vous voyez que vous avez deux régions où le revenu par habitant est quasiment le même, à 50 euros près, hein, vous êtes sur 1700 et quelques euros de revenus par an, et vous avez une différence d'espérance de vie, ici c'est l'espérance de vie calculée hommes et femmes, hein, pondérée en fonction du nombre d'hommes et de femmes dans la région, donc c'est calculé à la fois hommes et femmes, mais on a les mêmes constats si on analyse d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. Donc il y a quand même 2,3 ans d'écart de vie entre ces deux régions, alors que le revenu par habitant est exactement le même. À l'opposé, autre raisonnement, on raisonne cette fois-ci à espérance de vie identique, la Corse et l'Alsace. La Corse et l'Alsace, même espérance de vie quasiment, même un tout petit peu plus élevé en Corse, et pourtant, eh bien, le revenu par habitant n'a pas grand-chose à voir, hein, vous avez 17% d'écart de revenu par habitant entre l'Alsace et la Corse. Donc, on a ici un premier indice d'un effet territorial, puisque le revenu n'est pas un facteur explicatif pour la très grande majorité des populations françaises. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que quand on descend au niveau de la personne, il y a un lien entre le revenu et l'état de santé. Alors ici, ce n'est pas l'espérance de vie, c'est ce qu'on appelle le risque vital et l'invalidité, mais il y a un très fort lien au niveau personnel entre le revenu, alors ici c'est des chiffres de mine, ça vous explique qu'on est encore en franc, il y a un lien très fort entre le revenu personnel et l'état de santé de la personne, hein, en termes de mortalité et de morbidité, puisque plus on progresse dans l'échelle de revenus, plus l'état de santé s'améliore. Et donc il s'agit d'expliquer pourquoi ce qui est valable au niveau personnel ne se retrouve pas forcément au niveau spatial. Alors, autre manière d'aborder les choses, ici j'ai parlé du lien revenu-espérance de vie ou revenu-santé. La deuxième chose, c'est de l'aborder par les catégories sociales, sachant évidemment qu'il y a un lien entre catégories sociales et revenus, mais la profession, les conditions de travail jouent, les origines sociales jouent, donc on peut l'aborder par les professions sociales. Alors ça, c'est tiré d'un ouvrage que vous connaissez sans doute, qui est l'Atlas de la santé en France, hein, coordonné par Gérard Salem. Alors, cette carte, qu'est-ce que c'est? On compare, donc c'est la mortalité sur les 25-54 ans, on compare la catégorie ouvrier-employé et cadre supérieur profession libérale. Alors, en moyenne, sur ce taux de mortalité, il y a un écart de 2,9 entre ces deux catégories en moyenne nationale. C'est-à-dire qu'un ouvrier a presque trois fois plus de chances de mourir entre 25 et 54 ans qu'un cadre supérieur. De chance, de risque. De probabilité ou de malchance. Donc 2,9 en moyenne nationale, mais après quand on descend au niveau régional, les écarts sont très différents, puisque d'un côté en Languedoc-Roussillon, cette comparaison entre... Non, c'est en Corse où c'est le plus faible. En Corse, la comparaison entre ces deux catégories, l'écart n'est que de 1,9, alors qu'en Bretagne, l'écart monte à 4,2. Donc vous voyez que la différence d'espérance de vie ouvrier... Le différentiel ou la comparaison entre l'espérance de, enfin la mortalité prématurée ouvrier cadre supérieur est très différente selon les régions. Alors, petit focus maintenant sur le Poitou-Charentes. Mieux vaut être pauvre et en bonne santé. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, enfin même encore aujourd'hui, le Poitou-Charentes n'est pas une région favorisée. Hein. Je vais en parler. On va voir les différents indicateurs. Normalement, ne devrait pas conduire forcément à un bon état de santé dans la région. Et pourtant, ça a été très longtemps une région excellemment placée, jusqu'à tout récemment. Alors, tableau du haut, vous avez d'un côté donc les hommes et les femmes, et vous avez la situation en 1990 et la situation en 2005. Donc je commence par 1990, concernant, c'est toujours l'espérance de vie, hein, je prends cet indicateur parce qu'à mon avis, ça permet, bon, c'est un indicateur qui est discutable, mais ça permet d'en choisir un parmi toute une batterie. En 1990, le Poitou-Charentes était la deuxième région concernant l'espérance de vie des hommes, et la première région en termes d'espérance de vie des femmes. Bon, vous avez les autres régions, hein, le Nord-Pas-de-Calais, vous constaterez qu'ils sont toujours derniers et qu'ils restent derniers au cours du temps, hein, la situation, hein, mais qu'il y a quand même une progression de l'espérance de vie dans le temps. Alors, si on se situe en 1990, mais c'était quelque chose qui est assez valable dans les chiffres, on peut dire jusqu'à la fin des années 90, donc la région Poitou-Charentes est dans les régions de tête en termes d'espérance de vie. Pourtant, si on regarde les différents indicateurs choisis pour expliquer l'état de santé, rien ne peut permettre de l'expliquer. C'est une région qui est plutôt pauvre, hein, on est 16e, 17e en termes de revenus par habitant. C'est une population active où on va trouver plus d'ouvriers non qualifiés, plus de non-salariés, plus d'agriculteurs que de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Donc au niveau des catégories socio-professionnelles, normalement on devrait avoir une espérance de vie inférieure à la moyenne nationale. En ce qui concerne le niveau de diplôme, qui a aussi un fort effet sur l'état de santé, le niveau d'instruction et de diplôme moyen des habitants de la population est inférieur là aussi à la moyenne nationale. En ce qui concerne l'offre de santé, j'en parlerai très peu dans la conférence, j'axerai plus sur la demande que sur l'offre, mais au niveau de l'offre de santé, c'est une région qui en termes de généralistes est dans la moyenne nationale, mais qui en termes de spécialistes est plutôt, et d'infirmiers, et de kinésithérapie, et de kinésithérapeutes par exemple, est plutôt moins bien placée que les autres régions. En termes de lits hospitaliers aussi, pour 1000 habitants, hein, on est en dessous de la moyenne nationale. Donc il n'y a aucun indicateur traditionnel qui permettait d'expliquer cette bonne place du Poitou-Charentes. Alors, la deuxième chose que je voudrais vous faire noter sur ce premier tableau, c'est que le Poitou-Charentes est rentré dans le rang depuis 5-6 ans. On est rentré dans le rang, donc concernant les hommes, on est passé à la 10e position et on est exactement à la moyenne métropolitaine. Concernant les femmes, on est passé en 5e position, on reste au-dessus de la moyenne métropolitaine. Donc, le Poitou-Charentes, qui était en avance sur les autres régions, se rentre progressivement dans le rang. Alors, ça ne signifie pas que la situation se dégrade, hein, loin de là. L'espérance de vie continue à progresser en Poitou-Charentes. Hein. Les hommes ont gagné, les générations d'hommes ont gagné quand même 2 ans et demi, hein, sur les 15 ans, et puis les femmes ont gagné encore 2 ans et quelques. Donc, toutes les régions françaises continuent de progresser, mais dans la hiérarchie des régions françaises, le Poitou-Charentes, eh bien, rentre dans une situation que je dirais presque normal, vu les indicateurs socio-économiques traditionnels. Alors, autre manière de voir les choses, c'est le graphique du bas, c'est en termes de progression. Quand on regarde les gains d'espérance de vie sur la période 90-2005, eh bien, chez les hommes, le Poitou-Charentes, c'est la dernière région, 22e, vous avez que les régions métropolitaines ici. En termes de gains d'espérance de vie chez les hommes, c'est la région où ça a le progressé le moins sur les 15 ans. Et chez les femmes, 18e région, donc c'est un petit peu mieux, mais on est quand même très en bas dans le classement. Également, ce qu'on peut noter, c'est l'écart homme-femme. L'écart homme-femme, donc, qui était de 8 ans en 1990 et en gros de 7 ans en 2005. Eh bien, alors que le Poitou-Charentes était plutôt bien placé en termes d'écart homme-femme en 1990, maintenant est particulièrement, est assez mal placé. Donc, une région qui était assez étonnamment placée en termes de hiérarchie d'espérance de vie en 1990 et qui progressivement rentre dans le rang, ce qui paraît assez normal à la vue des indicateurs socio-économiques traditionnels. Deuxième chose, si on descend au niveau des territoires, là je serai très rapide, il y a 3 constats à faire, donc évidemment 16, 17, 79, 86, c'est les 4 départements du Poitou-Charentes. Ce qu'on constate quand on regarde l'écart 90-2004, on constate, première chose, que et c'est conforme à ce que je viens de dire, le Poitou, les départements du Poitou-Charente rentrent dans le rang. Le 79, qui était premier en termes d'espérance de vie des hommes en 90, se retrouve 35e. La Vienne, qui était 6e, se retrouve 47e. Et chez les femmes, à part la Vienne, alors ce sera mon troisième constat, hein, qui reste très très bien placé, même chose, les Deux-Sèvres rentrent dans le rang et tombent dans la moyenne des départements français. Alors, ça c'est le premier constat, donc on rentre dans le rang. Deuxième constat, c'est que l'opposition entre les Charentes et le reste du Poitou est en train de s'effacer progressivement, alors qu'il y avait, en termes de hiérarchie, toujours une nette différence entre le 79-86 d'un côté et le 16-17 de l'autre. Progressivement, la situation devient plus homogène entre les quatre départements. Et le troisième constat, quand même, et là, peut-être qu'au moment de la table ronde, les médecins auront une explication, la Vienne reste très bien placée concernant l'espérance de vie des femmes. Alors que du côté des hommes, on est rentré dans le rang, du côté des femmes, on reste deuxième, juste derrière Paris. Donc là, j'ai pas de facteur explicatif strict, mais peut-être que...
C'est les gènes.
Alors, on parlera de la mobilité. Est-ce que les femmes poitevines ont toujours habité le Poitou-Charentes? Ça, c'est pas du tout certain. Alors, par rapport à toutes ces données, donc... d'espérance de vie, d'inégalité d'espérance de vie et d'indicateurs socio-économiques traditionnels, on voit bien qu'à un moment donné, on a des difficultés à expliquer les différences de vie à travers le niveau de diplôme, à travers le niveau de revenu, à travers la profession. Et donc, il faut essayer d'aller à gratter, entre guillemets, un peu ailleurs. Alors, les premiers qui ont essayé un petit peu de casser cette analyse traditionnelle des inégalités territoriales de santé, c'est les Américains. Et ça s'est passé en trois temps, que je vais vous présenter rapidement. Premier temps, qui est un petit peu ancien, c'est une analyse qui remonte à 1976, qui a fait pas mal de bruit à l'époque, qui est la suivante. C'est d'un côté de mettre quelles sont les contributions potentielles à la réduction de la mortalité. Alors, c'est une étude qui a été menée sur les 13 principales causes de décès aux États-Unis. Hein, c'est une étude sur les États-Unis. Donc, maladies cardiovasculaires, cancer, accidents, maladies respiratoires, homicides, suicides, diabète. Ça représentait à l'époque 87% de l'ensemble des décès des Américains. Et d'essayer d'attribuer ça à un facteur prépondérant, qui peut être un facteur, donc les termes qui étaient employés, biologie humaine, disons un facteur génétique, pour faire simple. Ensuite, un facteur environnemental, physique, social et psychosocial, l'habitat, par exemple, la pollution, etc. Les styles de vie, avec notamment les conditions de travail, et puis enfin, le système de soins, donc ce qu'on aurait pu éviter comme mortalité en recourant plus vite au système de soins ou en recourant plus efficacement au système de soins. Et en parallèle, par rapport à ces origines de la mortalité, il met en parallèle les dépenses de santé américaines et il souligne que 90% des dépenses de santé sont des dépenses curatives, des dépenses de soins, et que, par contre, les dépenses de prévention, notamment, représentent, et les dépenses liées à l'environnement, à l'amélioration de l'environnement, représentent très peu. Donc, c'est l'idée qu'ici, il y aurait une certaine inefficacité de la structure des dépenses de santé. On serait allé trop vers le curatif, alors que dans le domaine des origines de la mortalité, il y aurait des actions en amont qui seraient beaucoup plus importantes. Alors, juste pour vous donner la transposition en France, on retrouvera la même analyse dans les années 1993-1994, au commissariat général du plan et au comité de la santé publique de l'époque, qui ont la phrase suivante, qui essayent de calculer un petit peu de la même manière, de comparer les causes de la mortalité et les dépenses de santé. Et on trouve la phrase suivante dans le rapport du commissariat général du plan de 1993. Les dépenses de santé évincent d'autres dépenses collectives, logement, éducation, aide sociale, qui peuvent être plus utiles à la santé. Donc, remise en cause... de la croissance des dépenses de santé comme gage d'allongement de l'espérance de vie et de lutte contre les causes principales de la mortalité. Alors ça, c'est la première étape. Deuxième étape, 1996, c'est concernant l'analyse des effets du revenu sur, sur la santé. Alors, Wilkinson, économiste américain, pense que dans les sociétés modernes, dans les sociétés, disons, à partir des années 1970, ce qui compte, ce n'est pas tellement le revenu absolu de la personne, c'est sa place dans la hiérarchie des revenus. Ce qui compte, c'est le revenu relatif, c'est comment on est placé dans la hiérarchie des revenus qui expliquerait l'état de santé, plus que le revenu absolu. Ce qui importe donc, ce qui importerait, c'est la comparaison aux autres, c'est plus que l'accès finalement à des biens et des services fondamentaux. Alors, dans ce type d'analyse, et dans, pas que chez Wilkinson, l'explication est la suivante. Moi, j'étais assez étonné, mais là aussi, les médecins pourront valider ou pas cette perspective. Il dit la chose suivante, c'est extrait de son article. Finalement, il se passe chez les hommes la même chose que chez les singes. Les animaux, alors je cite exactement la phrase, les animaux dominés sécrètent plus de cortisone, ont une pression artérielle plus élevée, ont moins de défense immunitaire et sont donc plus communément obèses. Même s'ils sont nourris de la même façon, ils développent donc plus de comportements dépressifs que les dominants. Donc, explication en termes de hiérarchie, en termes de domination. Alors chez les singes physiques, chez les hommes domination sociale, pour expliquer les inégalités de santé. Alors, pour le sujet qui nous intéresse, ce qu'en tire Wilkinson, c'est de dire plus dans une société on a une certaine cohésion sociale, moins elle est inégalitaire, plus normalement l'état de santé sera bon, puisqu'il n'y aura pas ce sentiment ou cet écart entre les dominés et les dominants. Troisième étape, 1997, dans cette analyse, c'est d'essayer de faire le lien un petit peu entre la culture et la santé. C'est de dire, il y a des questions économiques, il y a des questions sociales, mais il y a aussi des questions de vivre ensemble. Alors là, je fais référence à une direction du Conseil régional Poitou-Charentes actuel, hein, mais j'aime bien ce terme « vivre ensemble ». Et donc l'idée de Kawashi, c'est de dire, si on raisonne, je reviendrai sur cette expression, « toute chose égale par ailleurs », donc si on essaye de neutraliser les effets du revenu, les effets de l'éducation, les effets aussi des consommations à risque, hein, tabac, alimentation, etc. Il reste des différences entre les territoires, et lui, il va l'expliquer d'une part par la confiance civique de la population, par les relations personnelles, et puis également par la participation aux associations. Je reviens là-dessus. C'est-à-dire que c'est la vie relationnelle de sociabilité et sociale qui pourrait expliquer ces différences d'état de santé. Alors, l'ensemble de ces trois étapes, je critiquerai cette analyse beaucoup plus loin. Je caricature pas la position, mais pour le moment, je rentre dans cette perspective. Alors, cette perspective, elle est synthétisée, elle est globalisée par un politiste américain qui s'appelle Robert Putnam, qui est l'inventeur du concept de capital social. Alors, capital social qui n'a rien à voir avec le concept de capital social de Bourdieu, hein. C'est capital social au niveau territorial, au niveau collectif chez Robert Putnam, à partir d'un article de 1995 qui s'appelle Bowling Alone. C'était un petit article où il montrait que les gens qui étaient dans un club de bowling vivaient plus longtemps que les gens qui n'étaient pas dans un club de bowling, et que dans les régions où il y avait beaucoup d'affiliés au club de bowling, eh bien, l'espérance de vie était plus élevée que dans les régions où il y avait peu d'affiliation dans les clubs de bowling. C'était un exemple pour montrer que la vie associative, la vie relationnelle avait de l'influence sur l'état de santé. Donc ensuite, il produit un ouvrage en 2000 qui... Alors, il ne traite pas que de la santé, hein, mais c'est un des éléments importants de l'analyse. Il généralise ça dans un ouvrage qui aura beaucoup d'impact en l'an 2000. Et parmi, dans cet ouvrage, je vous ai extrait deux phrases qu'il appelle des effets de surprise. Et donc, j'en ai tiré deux. Premièrement, adhérer à un groupe, sous-entendu adhérer à une association, hein, au sens américain du terme. Adhérer à une association réduit de moitié le risque de mourir dans l'année qui suit. Vous savez ce qu'il reste à faire. Et deuxièmement, déménager vers une région à haut capital social, on va voir de quoi il s'agit de suite, c'est presque aussi bon pour la santé que d'arrêter de fumer. Sous-entendu, vous pouvez continuer à fumer, simplement en déménageant, vous pouvez améliorer votre état de santé. Alors, sur quoi sont fondées ces stupid facts, c'est sûr. Enfin, ces effets de surprise. Alors, l'idée, c'est donc de calculer, d'essayer justement de mesurer cette sociabilité territoriale, donc ce qu'il conceptualise sous le terme de capital social. Alors, il s'agit de construire un indice synthétique de ce capital social. Alors, comment est construit cet indice synthétique ? Vous avez en gros, je vous laisse lire, hein, je ne veux pas tout détailler évidemment, mais vous avez donc cinq grandes catégories. La première catégorie, c'est tout ce qu'on peut appeler participation associative, ce qu'il appelle, lui, vie organisationnelle de la communauté. Donc là, ce n'est pas au niveau d'un habitant, hein, c'est au niveau de la... au niveau du territoire analysé, ça va être les États américains dans son analyse, hein. C'est donc la personne a participé l'année passée au comité d'une organisation locale, c'est-à-dire est-ce qu'il a participé à la vie d'une association, et on prend le nombre de personnes qui ont participé dans l'ensemble de la population. Et ensuite, c'est cet indicateur-là qui va être retenu. Donc, les cinq premiers indicateurs relèvent de cette participation associative. Les deux suivants, c'est l'engagement dans les affaires publiques, c'est la participation aux élections, et c'est l'assistance aux meetings politiques. La troisième catégorie, c'est les engagements bénévoles. La quatrième catégorie, c'est les relations personnelles. Est-ce qu'on a passé beaucoup de temps avec ses amis ? Est-ce qu'on a reçu chez soi des amis ? Et la cinquième élément, c'est la confiance sociale. La confiance sociale, depuis très longtemps aux États-Unis, il y a des enquêtes annuelles sur des questions. Vous en avez deux exemples ici. Est-ce qu'on peut faire... on demande aux personnes, est-ce que vous pouvez faire confiance aux personnes qui vous entourent ? Ou autre exemple, est-ce que vous pensez que les gens qui vous entourent sont honnêtes ? Donc voilà les 15 indicateurs qui lui servent à construire un indice synthétique par État américain. Alors ça donne la chose suivante, et là encore, toujours dans cet aspect caricatural de Putnam, il dit, plus on se rapproche de la frontière canadienne, plus le capital social est élevé dans les États américains. Donc ce qui est en plus c'est foncé, hein, mieux c'est en termes de capital social. Lui, il explique de manière très simple, il dit c'est l'héritage du 19e siècle, c'est l'opposition entre les États nordistes et les États sudistes, c'est les dégâts à long terme de l'esclavage, des fractures sociales issues de l'esclavage qui expliqueraient en partie ça. Alors voilà donc que donne l'indicateur sur les différents États américains. Et ensuite, il fait la chose suivante. Vous avez l'indicateur de capital social en abscisse et vous avez l'indicateur d'état de santé. Je ne suis pas allé voir ce qu'il choisissait comme indicateur d'état de santé, si c'était l'espérance de vie ou si c'était un indicateur plus complexe. Et donc, il essaye de faire une relation entre les deux. Alors, on constate que ça marche mieux que lorsqu'on fait l'étude avec le revenu. Tout à l'heure, vous avez vu que dans le revenu, à part les deux régions, enfin sur le cas français, hein, à part les deux régions, la relation n'était pas nette au milieu. Ici, on a quand même une relation qui est plutôt croissante. Hein. Bon, ce n'est pas évidemment une corrélation absolue, hein, mais on voit bien que le nuage, il va bien du sud-ouest vers le nord-est, hein, qui aurait une corrélation positive. Et donc, ça vous explique les deux faits de surprise dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Le fait qu'adhérer à une association, bon, on l'a vu dans l'indicateur, ça permettrait d'améliorer l'état de santé. Et deuxième chose, que déménager, ben, quand vous êtes alors, là j'ai pas la signification des états malheureusement, mais si vous passez d'un état qui est complètement en bas et vous déménagez vers l'état qui est complètement en haut, eh bien vous gagnez beaucoup d'espérance de vie. Entre parenthèses, ça c'est mené toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire qu'il a annulé les effets de revenus, les effets de catégorie sociale, les effets de diplôme différentiels dans les États. Ce qui l'intéresse, c'est d'étudier l'effet spécifique du capital social. Alors, qu'est-ce que ça donne en France ? Qu'est-ce que ça donne en France ? Je suis allé voir les travaux de l'IRDES, hein, qui est l'Institut de recherche en économie de la santé en France. Donc, les travaux de l'IRDES depuis 5 ans, hein, à peine, même depuis 2004, qui est rentré dans cette perspective-là. Alors, auparavant, si on tire un bilan de tout ce qu'on a vu, l'état de santé, alors ce tableau il peut se lire soit au niveau d'une personne, soit au niveau d'un territoire. Donc qu'est-ce qui explique l'état de santé d'une personne ou qu'est-ce qui explique l'état de santé moyen d'une population sur un territoire, qu'il soit départemental, régional, national. Donc vous avez des facteurs biologiques, hein, sexe, âge, prédisposition génétique, vous avez l'organisation du système de santé, prix, couverture sociale, qualité, accessibilité, attente. Vous avez l'environnement physique, climat, altitude, etc. Bon, je ne reviens pas sur ces indicateurs, ces facteurs hein, qui sont traditionnels. Alors, ensuite, on passe à des indicateurs d'environnement social, en sachant qu'ici, on va justement essayer de distinguer ce qui est indicateur de structure de ce qui est indicateur de contexte, ou d'indicateur de voisinage. Alors, vous avez d'un côté des indicateurs d'environnement matériel, qualité de l'air, conditions de logement, conditions de travail et d'emploi, et puis revenu absolu, revenu de la personne, hein, revenu monétaire de la personne. Et puis, vous avez des indicateurs qui sont donc plus proches de ce qu'on vient de voir, donc les inégalités de revenus, comment on est placé dans la hiérarchie sociale, les réseaux de sociabilité, le nombre d'amis, le nombre de fois où on les rencontre, le capital social au sens de Putnam, et puis le sentiment de contrôle de sa vie. Alors, quelques exemples donc, d'études de l'IRDES sur ce sujet. Une première étude qui montre que le niveau des inégalités... Alors, c'est toutes des études, toutes choses égales par ailleurs. Donc, on neutralise les effets de revenus, les effets de profession, les effets de diplôme, et on essaye d'isoler un effet territorial propre. Alors, première étude, donc, les inégalités de la région d'habitation constituent un déterminant de la mortalité. Et donc, plus une société régionale est égalitaire, moins elle aura d'inégalités de santé. Plus elle est égalitaire économiquement, moins il y aura d'inégalités de santé. Donc, plus la hiérarchie est écrasée, plus la hiérarchie des revenus est écrasée, plus ce sera favorable à l'état de santé de la population, toute chose égale par ailleurs. Deuxième exemple d'étude, c'est concernant les recours aux soins. Même chose, on neutralise les variables traditionnelles et on constate que les recours aux soins sont très différents. Alors là, c'est une analyse au niveau de mémoire des cantons, que les recours sont très différents selon les cantons d'une même région et que donc il y aurait une sorte d'effet de voisinage. Quand on est dans un milieu, même si on n'est pas soi-même favorisé, quand on est dans un milieu qui a souvent recours, enfin dans un voisinage qui a souvent recours aux soins, eh bien on aura soi-même plus souvent recours aux soins, indépendamment de son revenu, de sa protection sociale, de l'offre de santé existante, etc. Troisième exemple, une étude un petit peu plus ancienne de Mizrahi de 2002, qui montre qu'il existe des modèles régionaux de recours aux soins. Hein. Par exemple, qu'en matière de comportement de prévention, eh bien, là encore, toute chose égale par ailleurs, les comportements de prévention sont plus développés en Île-de-France que dans les autres régions, ou qu'on observe mieux ces traitements dans l'est de la France que dans le grand sud-ouest, ou qu'il y a plus d'automédicamentation dans le nord c'est l'inverse, qu'il y a moins d'automédicamentation dans le nord qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple. Là encore, toute chose égale par ailleurs, on neutralise les effets de revenus, ou que le recours aux médecines parallèles est maximal dans l'ouest et minimal dans le nord et l'île de France. Deuxième exemple, ou deuxième série d'exemples, c'est concernant l'impact du capital social. Donc là, on a essayé de transposer ce que faisait Putnam aux États-Unis. Et donc, on a construit un indicateur qui est un petit peu différent de celui de Putnam, mais qui est dans le même esprit, un indicateur de capital social auto-perçu. Et l'effet que ça a sur la santé, alors là, ce n'est pas l'état de santé réel, c'est l'état de santé déclaré par les personnes, la façon dont elles ressentent leur état de santé. Et donc, là encore, on neutralise les variables traditionnelles. Et l'étude trouve que 4 parmi les indicateurs qui composent le capital social, il y a 4 éléments qui sont importants et qui expliquent alors... alors là, ce n'est pas forcément dans le même sens. Donc la non-participation collective dégrade l'état de santé, induit un état de santé moins élevé dans le territoire. Quand vous avez participation collective, participation associative, donc dans les départements où vous avez une forte vitalité associative, eh bien, toute chose égale par ailleurs, l'espérance de vie est plus élevée que dans les départements où il y a moins de participation associative. L'absence de support émotionnel, alors support émotionnel, c'est le fait qu'on puisse s'appuyer sur un ami ou sur un parent en cas de difficulté. Donc là, et là aussi, il y a des différences territoriales, hein, tout simplement parce que quand on vit dans une région depuis l'enfance, on a des amis, des parents qui sont plus proches géographiquement, par exemple, même si on peut les appeler par téléphone, hein, s'ils sont éloignés. Mais donc là, il y a aussi des effets territoriaux. Donc le support émotionnel joue. Le fait de gagner plus que le groupe de référence joue également de manière positive, c'est-à-dire que plus on est placé haut dans la hiérarchie des revenus, plus l'état de santé va s'améliorer. Et puis, le sentiment de contrôle de son travail joue également très, très fort. C'est d'ailleurs l'indicateur qui joue le plus. Hein. La position hiérarchique dans le travail, pas en termes de revenus, mais en termes de contrôle de son travail, d'autonomie, serait la variable qui jouerait le plus dans ces variables-là. Et puis enfin, il note que ces variables ont plus d'impact pour les femmes que pour les hommes. Dernière étude, qui est la plus récente aussi, qui est de 2009, hein, toujours de l'IRDES. Alors c'était une étude qui portait sur les US, hein, les zones urbaines sensibles, mais où il y a plusieurs aspects intéressants. Donc, il s'agissait d'étudier la probabilité de se déclarer en mauvaise santé par rapport à une situation de référence. Donc là, on est encore sur l'état de santé déclaré, hein, et pas sur l'état de santé réel. Il peut y avoir des écarts entre les deux. Alors, vous avez en haut les variables traditionnelles, en dessous les variables moins traditionnelles, plus territoriales. Les variables traditionnelles, alors évidemment, c'est l'âge qui l'emporte. Hein, donc à chaque fois, vous avez la comparaison entre la catégorie où la probabilité de se déclarer en mauvaise santé est la plus élevée et la catégorie où c'est la plus faible. Donc par exemple, pour l'âge, entre les 80 ans et plus et de l'autre côté, les 18-29 ans, c'est juste sur les Français de plus de 18 ans. Donc 44 points, bon, ça pose pas de problème. Le niveau de l'éducation, ça aussi, on le sait depuis longtemps. Entre un sans diplôme et un bac plus 4, hein, y a 13 points d'écart sur cet état de santé déclaré. En termes d'activité, là encore, hein, on fait varier une variable par une variable. Hein. C'est du raisonnement économétrique. Donc on raisonne sur, par exemple, éducation-revenu. On fait varier juste le niveau d'éducation ou juste le niveau de revenu. Les deux ne varient pas ensemble. Hein. Donc on prend quelqu'un qui a par exemple 20 000 euros de revenus et on regarde la différence, s'il est ouvrier ou employé, est-ce qu'il y a une différence ou pas, ou en fonction du niveau de diplôme. Donc le revenu joue également très fortement, l'activité, le fait d'être actif occupé ou d'être inactif au foyer joue fortement, la profession joue également très fortement. Femme, donc quand on fait juste varier cette variable-là, ça a déjà moins d'importance. Alors ensuite, les effets territoriaux. Alors le fait d'être en zone urbaine sensible accroît la probabilité de 2 points. Toutes choses égales par ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'on a neutralisé, évidemment, les revenus ne sont pas les mêmes dans ces zones que dans les autres zones, le niveau d'éducation aussi, mais quand il y a un effet spécifique de vie en zone urbaine sensible. Et ensuite, ils étudient des effets de voisinage propres. Alors, effet de voisinage en termes de situation économique et sociale, l'idée, vous êtes dans une situation moyenne, au sens national du terme, mais vous vivez dans un quartier qui est très favorisé. Vous vivez à Neuilly ou vous vivez, dans une zone en très grosse difficulté, mais vous avez le même revenu, vous avez le même âge, vous avez la même activité, etc. Et donc, ce voisinage économique et social expliquerait 5 points hein, entre les quartiers très défavorisés économiquement et les quartiers très favorisés. Deuxième élément qui jouerait, c'est la mobilité résidentielle dans le quartier. Est-ce qu'on est sur des populations, alors là, c'est en termes de durée de location ou de durée de propriété des habitants du quartier. Plus un quartier est mobile, plus ça contribue à améliorer l'état de santé déclaré. Et puis enfin, ce qui joue, c'est l'ancienneté des logements et l'âge de la population, plus 3 points. Mais il note sur cette dernière variable que là, ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément dans les quartiers où les voisins sont les plus jeunes et les logements sont les plus récents que l'état de santé déclaré va être le meilleur. C'est-à-dire qu'on a une courbe en U et que c'est la mixité qui serait plutôt favorable. Il vaut mieux ni être dans un quartier de personnes âgées avec des logements très, très vétustes, ni être dans un quartier où il n'y a que des jeunes avec des logements très récents. Il faudrait être, alors c'est plutôt vers le deuxième cas que vers le premier cas, mais dans une situation intermédiaire. Alors que les deux autres variables, hein, c'est très clairement un effet linéaire selon les catégories. Bon, je passe ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Je passe sur la situation Poitou-Charentes. Dernière chose, alors un petit peu de critique par rapport à ces différentes théories qui sont actuellement celles qui se développent hein, chez les économistes de la santé. C'est le problème des mobilités résidentielles. C'est que on fait comme si, dans toutes ces analyses, on fait comme si les gens vivaient au même endroit tout au long de leur vie. Si vous prenez le calcul de l'espérance de vie, c'est un calcul, on ne raisonne pas sur une personne qui existe, on raisonne sur une personne fictive qui aurait vécu chaque année au même endroit et qui appartiendrait à des générations successives. Donc on est sur un raisonnement d'immobilité totale du point de vue géographique. Alors, est-ce que ça correspond à la situation française? Il suffit d'aller regarder ce que dit l'INSEE par rapport à ça. Très rapidement, il y a quand même, au cours de la vie, donc là c'est une étude qui a été menée en 2003, c'est sur ce qu'on appelle les trajectoires de vie, donc on a demandé aux gens, au cours de votre vie, combien de fois vous avez changé de déménager, combien de fois vous avez changé de commune, de département, de région, voire même de pays. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la moitié de la population française a changé au moins une fois de région dans sa vie, voire même de pays, vous l'avez ici, donc vous avez quand même 22% de la population qui, à un moment donné, a vécu à l'étranger. Entre parenthèses, ce n'est pas les Français, c'est les résidents en France. Dans toute l'analyse que j'ai développée, on parle de Français, pas au sens nationalité du terme, mais en termes de résidence. Donc, vous avez une population qui n'est pas, qui est pas immobile, et en plus, cette mobilité elle est en accélération, elle est en augmentation. Quand on regarde les écarts entre les recensements, on s'aperçoit que cette mobilité interrégionale et intrarégionale, elle est en augmentation. Alors, la question est la suivante, c'est, et j'ai quasiment terminé, j'ai largement débordé, la question est la suivante, c'est est-ce que finalement ces différences d'espérance de vie, elles ne s'expliqueraient pas en partie justement par la mobilité des populations? Alors, pour faire très simple, l'hypothèse qui est derrière ces deux cartes est la suivante, c'est de dire, les gens qui sont en bonne santé, et donc qui arrivent à la retraite, en bonne condition physique, eh bien, vont avoir tendance à déménager vers le sud. Et ceux qui sont en mauvaise santé, ils vont rester dans leur région d'origine. Et donc, on constate, et c'est ce que vous avez ici, la mobilité, l'héliotropisme bien connu, ça pourrait expliquer en partie justement ces espérances de vie, ces différences d'espérance de vie régionale. C'est le fait que les gens en bonne santé se déplacent tout simplement plus vers le sud et donc font monter la moyenne d'espérance de vie de la région. Alors, c'est une hypothèse qui a été, à ma connaissance, étudiée simplement sur la région Alsace. C'est une étude de 2006 où ils ont essayé de mesurer ça et ils ont constaté en effet que les Alsaciens et les Alsaciennes qui étaient en bonne santé à l'âge de la retraite allaient se déplacer vers le sud alors que ceux qui étaient en mauvaise santé restaient en Alsace. Et que ça pourrait expliquer près d'un an d'écart d'espérance de vie au final. Alors, ça a été mené qu'en Alsace avec des conditions techniques assez particulières. On peut... À mon avis, c'est assez largement sous-estimé, mais c'est très difficile à faire comme ça, de suivre comme ça des générations d'une région à l'autre. Autant on photographie bien ce qui se passe dans une région à un moment donné, autant on a du mal à suivre les populations d'une région à l'autre. Mais c'est une piste qui permet aussi d'expliquer certains éléments. Alors, dernière chose, derrière cette croisade du capital social, pourquoi on essaye absolument comme ça de gommer les variables économiques et les variables sociologiques traditionnelles et d'essayer donc de dire le voisinage, l'environnement psychosocial a beaucoup d'importance en matière d'état de santé. Alors, c'est ambivalent, il y a un aspect positif, un aspect négatif. L'aspect positif, là c'est une autre recherche qu'on est en train de mener actuellement à l'université de Poitiers, c'est de dire, derrière tout ça, il y a un problème de mesure de la richesse territoriale. La richesse d'un territoire, au niveau régional ou départemental, ne se mesure pas qu'au PIB ou au revenu des habitants. Il faut réfléchir à des indicateurs de bien-être qui soient beaucoup plus larges. Ça se fait au niveau national, ça commence à se faire au niveau régional. Mais de dire l'état de santé, il ne peut s'expliquer que si on croise les différentes variables économiques, sociales et environnementales. Et vous avez reconnu l'optique développement durable qui est derrière ça. Mais l'aspect plus négatif, c'est que quand on regarde ces différentes études, la façon dont elles sont nées aux États-Unis, il y a une concomitance avec la critique du workfare, c'est-à-dire de l'État-providence. Fin des années 70, c'est le moment où aux États-Unis vont se développer les critiques de l'État-providence, les critiques des dépenses sociales, les critiques des dépenses publiques. Et donc, l'idée ici, c'est l'idée, enfin pas l'idée, mais ce qui sous-tend peut-être ces études, c'est de dire, derrière tout ça, il y a une responsabilité des personnes dans leur état de santé. Il n'y a pas qu'un aspect socio-économique, c'est aussi à eux, et on le voit bien avec Putnam, de participer plus aux associations, de participer plus à la vie politique. Et je vous rappellerai juste le débat des élections présidentielles américaines débat de septembre-octobre dernier entre Obama et McCain. Et McCain, sur justement la santé, sur l'évolution du système de santé américain, la question du journaliste au moment du grand débat, c'était de dire, est-ce que pour vous, la santé, c'est une question de droit ou de responsabilité? Et Obama a répondu, pour moi, il y a un droit à la santé. Et McCain a dit, non, la santé, c'est une question de responsabilité. Une économiste de l'INSEE qui a fait un très bon ouvrage à la découverte sur le capital social, un ouvrage critique, dit en fait, derrière tout ça, cette théorisation fait du capital social des pauvres un substitut au capital économique et financier des riches. Sous-entendu, les pauvres, si on veut améliorer l'état de santé des pauvres, il ne faut pas leur donner plus d'argent, il ne faut pas améliorer l'offre de soins, il suffit plutôt de subventionner la participation aux associations ou de subventionner la participation à la vie politique. Je caricature un petit peu. Et je finirai par une note humoristique pour les lecteurs de Pif Gadget, qui ont des souvenirs comme moi des années 70. Dans Pif Gadget, il y avait une bande dessinée qui s'appelait Les Tristus et les Rigolus. C'était des... Bon, vous voyez le dessin. L'idée, c'était de dire, quand un Tristus se retrouve au milieu de Rigolus, par effet de contagion, il devient un Rigolus. Et quand un Rigolus rentre au milieu des Tristus, par effet de contagion, il devient un Tristus. Donc l'idée que le voisinage a de l'influence ici sur la tristesse ou sur le bonheur. Alors appliqué à notre sujet, ça pose deux questions. La première question, alors tristus, ils sont verts, donc quand on est vert, en général, c'est qu'on est en mauvaise santé. De l'autre côté, vous voyez, ils sont bien roses, bien frais, donc plutôt en bonne santé. Alors, la première question, c'est est-ce qu'ils sont tristus parce qu'ils sont en mauvaise santé et parce qu'ils sont en mauvaise santé, ils sont relégués dans des territoires, dans des ghettos. Pour ceux qui ont lu l'ouvrage d'Éric Morin, alors ça porte sur l'éducation, sur le ghetto français, de dire il y a des effets de ghettoisation qui accroissent les inégalités socio-économiques. Donc ça, c'est la première question, pourquoi ils sont rigolus, pourquoi ils sont tristus. Et la deuxième question, c'est pourquoi justement il y a cette séparation entre les deux. Pour moi, ces effets de voisinage masquent certaines choses. Et en termes de politique de santé publique, dans la table ronde, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi, mais en termes de politique de santé publique, ça risque de faire évoluer les crédits accordés à tel ou tel type de dépenses de santé. Alors pour ceux que ça intéresse, l'article, vous le trouverez sur mon site personnel. Vous aurez l'article complet où vous aurez les détails et surtout les références bibliographiques des différentes études. Voilà.
Merci. On va peut-être passer à la table ronde tout de suite. Je suis désolé, Pierre, mais il vaut mieux qu'on enchaîne. Simplement, je me suis trompé tout à l'heure dans l'ordre de présentation. C'est Roland Beck qui passera en premier, mais il serait peut-être préférable que Christian Tavillier intervienne après, puisque vos interventions sont plus proches, peut-être pas géographiquement, mais dans le contenu, puis après Dominique et après Martine. Donc,
si vous bien. Est-ce que rejoindre. Tu crois que les indicateurs de Putnam nous laissent encore une chance? L'intervention de Gilles Clerc aussi, on va essayer de la prendre. Alors, on y va ensemble. Donc moi je parle, c'est un témoignage sur le vécu d'un président de conseil d'administration d'un centre hospitalier rural Saint-Jean-d'Angély-sur-Boutonne pendant 19 ans, après avoir été aussi administrateur, lorsque j'étais jeune conseiller général, pendant 6 ou 7 ans. Je ne veux pas continuer sans refaire défiler devant vous une sorte de carte postale de l'époque des années 80, où j'arrivais dans un centre hospitalier caractérisé par un hospice et son jardin avec beaucoup de personnes âgées, une maternité en très bon état, deux chirurgiens et demi, un pour le mou, un autre pour un et demi pour le après, une immense chapelle où les courants d'air fournissaient, bien entendu, toutes les pathologies pour le lundi matin. Et puis, ben, au milieu de tout ça, aussi des religieuses qui effectuaient une bonne partie d'auxiliaires du service médical. Donc tout ça pour dire que la situation, quand même, à travers les âges, et sur 30 ans, a considérablement évolué, me semble-t-il, et fort heureusement. Hein. On n'est pas là, donc, dans l'accès aux soins que je considère aujourd'hui comme tout à fait inégalitaire, soyons clairs, je ne peux pas me départir quand même de ces 30 années un petit peu de différence de vision quand même de ce que sont aujourd'hui nos établissements hospitaliers. J'ai jamais eu dans la tête de vouloir de faire d'un hôpital de cette dimension-là, desservant un bassin de population de 50 à 60 000 personnes, à l'époque viticulteur de la zone Cognac, éleveur de vaches laitières, céréaliers, bon, tout ça a beaucoup changé également, ouvrière avec Gringoire Brossard, une usine Gélipan de 400 à 500 ouvriers aussi. Dans cette zone de population, il était clair dans ma tête et dans celle des administrateurs, je pense, de l'hôpital, presque tous, éclairés d'ailleurs par des membres, je t'en parlions tout à l'heure, par des membres des caisses régionales d'assurance maladie qui avaient une vision un peu plus globale que nous du territoire. On n'a jamais voulu faire de ça un outil super moderne, un petit CHU des bords de la Boutonne. Mais notre sentiment, enfin notre volonté commune a bien été de doter le territoire d'un outil de santé au mieux, le plus performant possible pour répondre au maximum de pathologies que nous pouvions fréquenter et rencontrer. Cela a pu se produire aussi dans une sorte de solidarité, de solidité des hommes entre eux sur le territoire, qui ont eu confiance dans ce qu'ils réalisaient, avec l'humilité aussi de ce qu'ils faisaient, et qui ont eu confiance aussi dans ceux qui, à côté, je parlais de Saintes ou de Niort ou de Cognac, ou Rochefort, faisaient à peu près la même chose que nous, avec lequel nous sommes entrés, nous avons entretenu d'excellentes relations très rapidement. Ces relations traversaient et transgressaient tous les clivages politiques du moment. Je succédais à un élu RPR, Yvan Chanut-Limur, le fils de l'importateur de King Kong en France, avec lequel j'avais des combats politiques rudes, mais avec lequel nous entendions parfaitement pour la gestion des affaires locales et du centre hospitalier à la mesure de ce qu'il fallait à notre population. Et j'avais aussi à la périphérie d'excellents camarades comme Philippe Marchand à Saintes, dans lequel donc il y a eu cette solidité et cette solidarité des hommes qui nous a permis de nous engager très tôt dans les défenses qu'il fallait mettre en place et très vite également dans des coopérations interhospitalières à la mesure de ce que les uns et les autres savions faire ou mal faire ou le mieux faire possible. Premier combat, je m'en souviens, c'était pour la création d'un laboratoire d'analyse publique. Saint-Jean-de-Gigny, il n'y a pas de secteur commercial, pas de secteur privé de clinique. Donc c'était, ça facilitait la chose. Donc nous avons décidé de créer contre le laboratoire, il y avait un laboratoire d'analyse privée qui venait de s'implanter, d'essayer de créer un laboratoire d'analyse publique. L'affaire a bien marché au bout de 2 ans d'un match un peu difficile, mais enfin, ça s'est très bien passé et ça a beaucoup consolidé aussi les hommes entre eux pour aller plus loin. 1992, les menaces à travers le rapport de l'époque, le rapport Steg, du nom du professeur qui redéfinissait la carte, notamment des maternités, je crois, hein, mais non, pas seulement des maternités, mais une maternité qui, entre guillemets, donnait naissance, non, j'allais dire produisait, donnait naissance plus exactement à un peu plus de 500 bébés par an, était, disait-on, menacé de disparition. Je ne vous dis pas le défilé d'automobiles, de banderoles, d'écharpes qui traversèrent les rues, de blouses blanches évidemment, pour effectivement consolider ce que faisait le centre hospitalier à travers cette lutte commune, cette solidarité pour la défense de la maternité, alors que qu'il fallait moderniser les bâtiments, remplacer la chapelle par autre chose, etc. etc. Et nous avons ainsi cheminé en mettant en place, ce faisant, 3 grands secteurs, je pense, bien réussis de coopération interhospitalière. Un groupement de coopération sanitaire concernant le laboratoire d'analyse biologique, une coopération avec le CHU de Poitiers concernant l'ophtalmologie, qui est actuellement une denrée rare, chère et très difficile à trouver. Et tout ce qui est également gastro-entéro, échange de chirurgiens avec le centre hospitalier de Saintes. Cela se fait dans un climat de confiance des directeurs, des administrateurs, entre guillemets, du chiffre d'affaires, des équilibres budgétaires du centre hospitalier, du maintien de l'emploi médical. Actuellement, c'est un petit hôpital qui représente un peu moins d'un millième de la consommation financière des hôpitaux de France et de Navarre, hein, de la dépense médicale, mais qui équilibre bien son affaire en développant aussi tout ce qui est EHPAD et des lits d'aval, des soins de suite, car nous en avons besoin. Il y a une direction commune également sur les maisons de retraite. 1, 2, 3, 4 actuellement. Des projets sur une cinquième. Je ne veux pas dire que c'est pas l'idéal n'est pas là. Mais enfin, grâce à la coopération hospitalière et à un partage que je considère politiquement voulu, mais techniquement pas trop mal réussi, nous arrivons à répondre à la demande des gens du territoire. Mais nos inquiétudes sont grandes quand même. Elles s'appellent coûts médicaux très importants et surcoûts médicaux pour l'émission d'intérêt général et le paiement des médicaments coûteux qui augmente à peu près, le prix augmente à peu près de 20% par an. Les démographies médicales catastrophiques, puisque le nombre de médecins omnipraticiens ou spécialistes diminue quand même à vue d'œil. Gilles Kerr, dans une conférence précédente, indiquait, je l'ai déjà entendu, que la France manque de 20 000 médecins par le numerus clausus, etc., installé il y a plusieurs années, 77-97. Nous en sommes victimes dans les territoires, et mon inquiétude est grande sur la démographie médicale. Sur le départ à la retraite d'un certain nombre, j'avais pris quelques chiffres d'infirmières et de praticiens avant 2015, puisque je crois que les rapports actuellement de l'IGAS et de la Fédération hospitalière de France donnent pronostic un départ de, j'avais noté ça quelque part, 94 000 infirmières, vous voyez le tableau, entre 2007 et 2015, 5 000 praticiens hospitaliers. Donc là est notre inquiétude très lourde pour l'avenir et pour l'accès aux soins des gens qui nous entourent. Les revalorisations salariales sont ce qu'elles sont, mais dans le budget insuffisamment relevé des hôpitaux publics, elles pèsent quand même relativement lourd, ainsi que les RTT auxquels les salariés ne peuvent accéder. Je ne néglige pas non plus les surcoûts causés par un certain nombre de normes de sécurité, de plus en plus vu les risques et la demande, l'exigence certainement légitime de la population et l'élèvement des normes de sécurité et l'élèvement aussi des cotisations d'assurance payées pour couvrir l'activité, l'essentiel de l'activité médicale. Voilà donc la vie pas toujours tranquille d'un petit centre hospitalier de province. Qui continue, ma foi, à essayer de vivre dans le partenariat avec d'autres et qui espère continuer à apporter à ces populations les soins qu'elles peuvent attendre du service public hospitalier. Bon, d'autres, plein de choses que je pourrais vous raconter dans l'histoire de cette chose-là, bon, y compris parfois des trucs assez saugrenus, assez plaisants dans la vie de 20 ans et un peu plus dans un centre hospitalier. Mais je crois que je ne suis pas le seul à parler. Il y a d'autres qui ont beaucoup de choses à dire. Merci.
Je m'appelle Christian Tavillien. Je suis chirurgien orthopédiste au centre hospitalier de Montmorillon. Montmorillon, 7500 habitants, qui drainent 40 000 habitants. Alors, chirurgien, je suis forcé de parler de chirurgie et d'hôpital de proximité. Alors, tout le monde entend depuis des mois, des années, que petit hôpital, c'est synonyme de d'insécurité et de manque de qualité. Ça, ça fait très mal parce qu'il ne s'agit pas de certains petits hôpitaux, tous les petits hôpitaux. Et puis on entend dire que les petits hôpitaux ne disparaîtront pas, ils seront restructurés et on comprend que ce sont les services de chirurgie des petits hôpitaux qui doivent donc disparaître. Pourquoi ? Donc il y a un manque de qualité et insécurité. Alors, le nombre de praticiens, le nombre d'interventions faites, puis l'adage, on n'est bon que si on pratique un certain nombre d'interventions, c'est vrai. Ce qui fait mal, c'est de dire tous les hôpitaux de proximité, tous les petits hôpitaux. Alors, je suis forcé de vous témoigner du vécu, de mon vécu quotidien, chirurgien orthopédiste. Un service de chirurgie de 28 lits, deux chirurgiens, un orthopédiste, un viscéraliste. Alors, mon vécu quotidien, c'est réparer la petite plaie domestique, le tendon qui arrive, la petite fracture d'un doigt, d'un poignet, d'une jambe, d'un col du fémur, mettre une prothèse pour des fractures, mettre des prothèses pour de l'arthrose, ce sont des interventions programmées. Je suis forcé de vous donner un chiffre, 150 prothèses de hanche ou de genou, quelques-unes d'épaule. Au centre hospitalier de Montmorillon, ce sont des interventions programmées. Donc les gens ont la possibilité de se renseigner où ça se fait, où il y a la qualité, et donc ils sont prêts à faire, à parcourir des kilomètres et des kilomètres pour trouver le meilleur soin. Donc s'il se fait autant de prothèses de niveau quand même assez pointu, dans un petit hôpital, c'est quand même signe de qualité. C'est difficile de parler de soi. Mais avec tout ce qu'on entend, là où je veux en venir, c'est que de la petite plaie à la prothèse, ça représente pour une ville comme Montmorillon pratiquement la majeure partie de l'offre demandée, de la pathologie de tous les jours. On ne va pas faire une chirurgie du rachis, on ne va pas faire une pancréatectomie, on ne va pas faire une chirurgie colique très sophistiquée. Toutes les pathologies lourdes, importantes et pour lesquelles on n'a pas l'habitude, eh ben, on les transfère au CHU. Alors, ce qu'on entend dire, c'est que les petits hôpitaux manquent de plateaux techniques suffisants pour effectuer des interventions de qualité, ça, ça fait mal. Parce que dans la pratique, on répond à la majeure partie de ce qui se fait, de ce qui est demandé. Et quand il s'agit d'une chirurgie très lourde, on est les premiers à les transférer et on en profite des moyens de transport qui est mis à notre disposition. Alors, on m'a demandé de parler d'inégalité de territoire et de la périphérie. Alors, on entend parler de désert médical, de manque de médecins. On parle de désert médical et pas de désert chirurgical. Alors, on est surpris d'entendre qu'il y a des hôpitaux où ça marche et on cherche à les faire disparaître. Des services de chirurgie à les faire disparaître. Le coût. Si je vous ai parlé de tout ce que j'ai fait tout seul, ça veut dire sans l'aide d'un interne, sans l'aide d'un attaché, sans l'aide d'un assistant, sans l'aide d'un chef de clinique, vous comprendrez que le coût d'une pathologie faite dans un petit hôpital revient beaucoup moins cher que dans un CHU où il y a la recherche, il y a l'avenir de la médecine, tout ça, ça coûte trop cher. On ne peut pas le faire, mais ça explique que la journée et le coût d'une pathologie traitée dans un CHU est nettement supérieur à celle traitée dans un petit hôpital. Alors ça me semble quand même logique de favoriser les interventions, l'offre de soins des petits hôpitaux, parce que d'une part, c'est moins coûteux, et en plus, il y a la qualité. La qualité, en fait, elle est prouvée par le nombre d'interventions, par la fidélité des gens, par la fidélité des patients. Et plutôt que de chercher à fermer des petits services de chirurgie, autant apporter éventuellement le complément à ces services pour que la qualité y est. Alors, Montmorillon et son hôpital est pratiquement en avance sur la loi HPST, vous savez, la nouvelle loi qui veut que des communautés hospitalières de territoire se mettent en place de façon à ce qu'il y ait une complémentarité entre les hôpitaux d'un territoire. Pour la Vienne, ça veut dire que le CHU, Châtellerault, Montmorillon, Loudun formeraient une entité pour s'entraider médicalement et à tout point de vue. Alors, Montmorillon a pris les devants, puisque on a fait des fédérations interhospitalières avec le CHU et on a vu une fédération en chirurgie qui permet à un chirurgien cancérologue de venir sur place, consulter, apporter la qualité, la compétence. Les patients montmorillonnais trouvent sur place un professeur qui les écoute, qui les diagnostique, qui va en consultation multidisciplinaire étudier leur cas. Ils sont toujours à Montmorillon, il leur apporte la réponse et puis le traitement est fait d'une façon beaucoup plus confortable. Le professeur d'Aban, ici présent, en sait quelque chose. Cette complémentarité, cette coopération, on l'a reçue comme une manne et comme une preuve du bon sens et de l'exemple à suivre. C'est-à-dire les petits hôpitaux, là où ça marche, là où il y a une fidélité, là où il y a une qualité de soins, soient aidés pour que la complémentarité aide à les maintenir sur place et non pas à les faire disparaître. Alors, quand on parle d'insécurité et de... Ça marche tellement bien qu'on est toujours sur nos gardes. On attend chaque jour qu'il y ait une décision de fermeture. Alors, vivre continuellement avec un personnel qui est dévoué, avec un hôpital qui marche, un service de chirurgie qui est excédentaire, avec toujours cette idée que sur le plan national, on décide de fermer les petits hôpitaux, et notamment les services de chirurgie, c'est quelque chose de lourd et qui mérite quand même une correction. Que chaque cas soit étudié à part et non pas ne pas mettre dans le même panier tous les petits hôpitaux qui sont quand même une nécessité pour l'égalité des soins dans un territoire. Alors qu'est-ce que je peux dire d'autre? La désertification, ça concerne les médecins. Les médecins de famille sont d'autant plus encouragés à s'installer quelque part qu'il y a un service de chirurgie. Vous savez, un médecin de famille, on voit son patient dans mon service. Le patient est opéré, il l'accompagne, il lui rend visite très fréquemment, ce qui rassure. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Vous imaginez que si on supprime un service de chirurgie de proximité, d'abord les médecins ne seront pas encouragés à venir s'installer. Et d'autre part, vous enlevez une qualité. C'est la qualité de la proximité. J'ai envie de parler pendant des heures de la proximité. C'est de se dire, on a à côté de soi un service de chirurgie. Le petit bobo ou la fracture ou ceci ou cela, on a rapidement une accessibilité. Et ça, ça fait partie du patrimoine et de la qualité qu'il faut conserver. Et on ne comprend pas que sur le plan national, quelle que soit la couleur des dirigeants, il y ait toujours cette idée de montrer comme la cause des dérives budgétaires, les petits hôpitaux. Nous sommes un exemple, on est excédentaire, on a une activité débordante. Je demande l'aide en praticien, on ne nous en donne pas. Et le règlement, la loi, va dans le sens où là où il n'y a pas assez de praticiens, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la qualité. Et ça, c'est vraiment une réalité qui est déprimante. Et j'espère que ce que je viens de dire pourrait être rapporté en haut lieu pour qu'enfin, on puisse au moins distinguer les petits hôpitaux, les petits services de chirurgie qui sont utiles et qui marchent, qui rendent service à la population. Et là où il n'y a pas la qualité, où je serai le premier à être d'accord. Vous savez, proximité, même pour les gens de Poitiers, c'est la même chose. Imaginez qu'on ferme les hôpitaux de Poitiers et qu'on vous dise on a quand même l'hélico et les ambulances et les moyens de transport. Vous irez à Tours, vous irez à Bordeaux. On n'imagine pas un instant. Mais la proximité, ça a un tel sens fort quand il y a une ambiance familiale, une ambiance intime, et la qualité en plus, la sécurité en plus, sans vous dire que la qualité dépend du nombre d'actes qu'on fait. Et quand il n'y a que des seniors dans des petits hôpitaux, automatiquement, c'est quand même la preuve qu'ils ont eu quand même l'expérience. Et j'espère qu'ils demeureront et qu'ils pérenniseront leur situation. Je vous remercie.
Oui, Dominique Pacro, donc je suis conseiller général du canton d'Hervaux dans le nord-est des Deux-Sèvres et aussi président de la communauté de communes de l'Hervaudais qui rassemble les communes du canton. Alors tout d'abord, je voudrais dire pour un peu illustrer votre propos que mon père a 89 ans, il est hospitalisé actuellement pour insuffisance cardiaque à Thouars, à 15 km de son domicile et de mon domicile aussi. Et c'est vrai que cette notion de proximité, je crois, est très importante pour le moral des patients et puis pour la qualité de vie de ces patients et des familles. Je crois qu'effectivement, si ces services, ces hôpitaux périphériques n'existaient pas, que ça serait beaucoup plus compliqué pour tout le monde, en fait. Voilà, donc Moi, je vais vous parler en fait de mon territoire, hein, l'Hervaudais et un petit peu autour. C'est une zone rurale. Le canton d'Hervaux, c'est 5000 habitants. Je vais aussi associer le canton à côté, qui est celui de Saint-Loup, qui fait aussi Saint-Loup-sur-Touy, qui fait aussi 5000 habitants, parce que c'est le même bassin de santé, on peut dire. Les patients vont indifféremment à Saint-Loup ou à Hervaux chez les médecins. Sur ce territoire de 10 000 habitants, il y a actuellement 10 médecins. Donc on peut dire qu'il y a une présence médicale qui est relativement forte. 10 médecins, 6 infirmiers, une sage-femme, 4 kinés ou 3 kinés. Et un seul chirurgien dentiste. 10 médecins, mais 6 ont plus de 55 ans. Donc il y a véritablement des inquiétudes pour l'avenir. Et ces médecins sont installés de façon différente suivant les cas. 4 sont dans un cabinet de groupe et les 6 autres sont installés individuellement. Donc une inquiétude pour l'avenir, c'est en fait les praticiens qui nous ont alertés, nous les élus, sur l'évolution de la démographie médicale et le risque qu'il y avait dans les prochaines années de voir les médecins partir en retraite et de ne pas être remplacés. Donc une première alerte en 2005-2006. Donc bien sûr, nous avons accompagné les médecins dans ce travail de réflexion. Il y a eu une première idée, une première ébauche de maison médicale, de groupe pluridisciplinaire à Saint-Loup sur Thouet, donc qui comprenait 4 médecins, 3 infirmiers, et très vite ce groupe de professionnels a considéré que l'échelle était un peu petite et qu'il fallait considérer le projet sur le bassin de santé dans sa globalité, donc sur les 10 000 habitants. Et donc maintenant la réflexion se fait au niveau du bassin de santé Saint-Loup-Hervaux, alors qui est classé par l'URCAM en zone très défavorisée, de même que la zone de Moncontour qui est dans la Vienne mais qui est connexe et qui fait aussi partie du même bassin de santé. Voilà, alors pour nous les élus, pourquoi finalement c'est important d'assurer une présence médicale sur le territoire? Alors bien sûr pour assurer un service de soins à la population, donc une population qui est, donc on est en zone rurale, on a une légère progression de la population, progression d'un ou 2%, enfin qui n'est pas très importante, mais une population qui est âgée, parce qu'on vit de plus en plus vieux, et c'est tant mieux. Donc, assurer ce service de soins à la population, et puis aussi, parce qu'on a quand même un petit peu le souci de nos territoires et de l'avenir, on se rend bien compte que pour que nos territoires soient attractifs, eh bien, il faut que les habitants puissent y trouver des services, et donc une volonté de maintenir nos territoires attractifs par une présence médicale sur le terrain. Voilà donc un peu l'essentiel de nos préoccupations. Alors maintenant, comment ça se passe? On en est au tout début du projet. Les professionnels de santé, donc les médecins, alors pas les 10, mais 6 ou 7, 7 ou 8, hein, plus des infirmiers, plus un podologue, plus la sage-femme, plus les kinés, ont constitué une association une association qui est pilote un petit peu de ce projet, et nous les élus venons en appui de ce projet. Alors une première étape a déjà été franchie, la MRS, donc mission régionale de santé, a été saisie, elle a donné un avis favorable, et actuellement les professionnels de santé travaillent sur l'élaboration du projet de santé. Il est fort probable, un peu tôt pour le dire, mais fort probable qu'on verra donc la réalisation d'une maison de santé pluridisciplinaire où les différents praticiens seront présents, où la maîtrise d'ouvrage de l'immeuble sera vraisemblablement publique. Alors les collectivités locales, on ne sait pas encore si ça sera les communautés de communes ou un syndicat intercommunal qui investira pour louer par la suite les mètres carrés aux praticiens, aux professionnels. Alors je ne sais pas s'il faut que je m'étende un petit peu sur le fonctionnement et sur les bénéfices attendus d'un tel équipement. Parce que je crois que vous devez connaître ça largement, c'est un point. Qu'est-ce qu'on attend de cette maison de santé pluridisciplinaire? Eh bien, on attend, enfin tout le monde attend, donc une facilité d'installation pour les médecins et autres professionnels, à savoir que un jeune médecin peut venir s'installer. Quand il arrive, il loue ses mètres carrés, il dispose d'un secrétariat commun, donc il participe aux dépenses, mais le secrétariat est là. Il y a un service d'entretien des bâtiments qui existe, donc il a juste à payer sa quote-part. Et donc il y a une souplesse et une facilité d'installation qui, à notre avis, va faciliter cette installation. Il y a aussi donc la proximité de ses collègues pour avoir un soutien, pour avoir aussi une mutualisation en tous les cas, le dossier médical partagé. Je crois que c'est quelque chose qui est attendu, à savoir que quand le patient va voir son médecin A, quand le médecin A est en vacances ou absent, il peut aller voir le médecin B, et le médecin B a accès au dossier médical du patient. Donc il y a une garantie dans la qualité des soins, un suivi dans les soins qui peut être assuré. Voilà donc, je crois, pour l'essentiel de cette attente. Donc, je le répète, on y voit, nous élus, donc un intérêt donc bien sûr pour l'offre de soins pour les patients, mais aussi un facteur d'attractivité pour nos territoires.
Donc moi je m'appelle Martine Daban, je suis conseillère régionale Poitou-Charentes et vice-présidente chargée de la santé, vice-présidente de la commission santé. Donc depuis 2004, on s'est un peu auto-affecté la compétence santé, c'est-à-dire c'est pas une compétence prioritaire des régions, mais il nous a semblé justement dans le cadre de l'aménagement du territoire et des problèmes d'inégalité face à l'offre de soins, de pouvoir agir pour réduire ces inégalités territoriales. Alors c'est parti au départ d'abord d'un état des lieux qui fait que, bon, vous en avez parlé, le territoire est inégal, les médecins, les professions de santé sont inégalement réparties sur le territoire de la région, avec bien sûr une plus forte densité autour de Poitiers et du CHU et le long des côtes et des îles, avec des territoires très déficitaires déjà en profession de santé. J'insiste bien pour dire qu'on parle toujours, nous, en termes de profession de santé, c'est-à-dire pas uniquement la désertification médicale. On parlait tout à l'heure à table, la situation est encore plus difficile, plus dramatique, entre guillemets, pour les chirurgiens dentistes, puisque la Vienne et les Deux-Sèvres sont déjà très déficitaires par rapport à une moyenne nationale pour 100 000 habitants. Donc, on a donc fait ce constat qui a été très bien décrit, d'une région à la fois plus rurale, donc avec des territoires ruraux qui sont encore habités, je ne sais pas si ça durera longtemps, mais pour l'instant qui sont encore habités, une région plus pauvre aussi, et une région avec plus vieillissante, plus que la moyenne nationale, donc avec une forte demande de soins et de santé. Alors, à la suite de ce constat, on a rencontré les étudiants en médecine, puisque là, on s'est aperçu très rapidement qu'il y avait une mutation importante des espérances des étudiants en médecine en termes d'installation et de travail. D'abord, il y a un fait qui est indéniable, c'est la féminisation, puisque actuellement, à la fac de médecine de Poitiers, 75% des étudiants sont des filles. Et que bien nombre de ces filles, d'abord, n'ont pas envie de s'installer en milieu rural très éloigné des centres-villes, parce que, d'une part, parce que souvent les maris ou les conjoints ont eux-mêmes un travail dans les villes, et puis ensuite parce que, en termes d'éducation d'enfants, d'école, de collège, de lycée, pas envie d'aller s'installer à la Trimouille ou à Charroux. Ensuite, il y a une mutation de la profession qui est liée peut-être à la féminisation, hein, je ne sais pas. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine, le cœur de métier, c'était la médecine générale, où on restait à l'hôpital, où on faisait de la médecine générale et de la médecine de campagne en particulier. Et on s'est installé comme médecin de campagne à la fin de ses études. On achetait une grosse maison et on devenait un notable dans le village. Alors que là, il n'y a plus du tout ce souhait de travailler 24 heures sur 24, 365 jours par an et de devenir un notable. Il y a souvent le souhait de dissocier le lieu de vie professionnel et le lieu de vie tout court, c'est-à-dire de ne pas forcément avoir le cabinet au rez-de-chaussée de la maison et être en permanence entre la vie et la maison. Et puis surtout, un très fort désir de ne plus travailler seul. Ça, c'est ce qui nous est apparu très rapidement. Un des souhaits principaux des étudiants, enfin des jeunes étudiants en médecine, c'était, après avoir passé 10 ans à l'hôpital dans une équipe où on a la possibilité de discuter, la possibilité d'avoir recours au conseil de ses pairs, de ne pas se retrouver tout seul. Ça aussi, c'est une profonde mutation, parce que le médecin généraliste était jusqu'à présent très individualiste et au contraire, il aimait être tout seul. Donc, partant de là, on a proposé quelques mesures extrêmement simples et concrètes pour essayer à la fois d'attirer les jeunes médecins vers la médecine de campagne et la médecine rurale, enfin en zone déficitaire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a d'abord contribué à former les médecins généralistes pour être maître de stage, c'est-à-dire qu'on a rencontré les généralistes et on leur a dit, si vous voulez avoir des successeurs ou des associés, vendez-vous un peu. C'est-à-dire, essayez de leur montrer tout ce qui peut être attractif dans le métier de médecin de campagne. Alors, c'est vrai que ça, c'était relativement nouveau, parce que les médecins sont effectivement formés dans les hôpitaux, principalement dans les grands hôpitaux, hein, et les jeunes médecins ignoraient tout ce qui pouvait être une autre pratique que la médecine hospitalière. Donc, actuellement, on a contribué à former 53 médecins maîtres de stage en les indemnisant pour cette formation, qui est faite par la fac de médecine. Ensuite, on a aidé matériellement les étudiants de troisième cycle, c'est-à-dire les internes, à faire des stages chez les maîtres de stage en milieu rural. Alors, avec le constat qu'on avait fait au départ, c'est-à-dire que quand on avait rencontré les étudiants en médecine de sixième année en 2004 et qu'on leur avait posé la question qui avait l'intention de s'installer en milieu rural, il n'y en avait aucun. Comme ça, à la première réponse, il n'y en avait aucun. Donc, on a essayé de les attirer vers cette forme de médecine et de leur faire découvrir non seulement l'exercice médical en milieu rural, mais aussi finalement le mode de vie en milieu rural, et que vivre à 15 ou 20 ou 30 kilomètres d'un centre urbain, ce n'était pas non plus un exil irrémédiable. Ensuite, on a favorisé, comme vous l'expliquiez là à l'instant, le regroupement des professionnels de santé, hein, partant des constats que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les jeunes médecins n'avaient plus envie de travailler seuls comme ils le faisaient autrefois. Donc, en favorisant les maisons de santé de proximité, avec le regroupement des professionnels, hein, là aussi, c'est exactement ce que vous avez décrit Saint-Loup, voilà, hein, la maison. Avec des maisons de santé expérimentales, alors ça c'est très lourd à monter, et pour l'instant il n'y en a qu'une réellement qui est celle d'Aulnay, hein, d'Aulnay de Saint-Onge, en favorisant le regroupement des professionnels de santé, avec le dispositif que vous avez décrit là à l'instant, c'est-à-dire des professionnels de santé qui portent un projet, et une collectivité, qu'elle soit commune, communauté de communes, pays, qui soit le support de ce projet. Alors la région participe aux investissements de ces maisons de santé de proximité pour tout ce qui est partie commune, c'est-à-dire la partie qui va le bureau qui pourrait accueillir l'étudiant en médecine stagiaire, les parties pour accueillir aussi le réseau, s'il y a un réseau, puisqu'on souhaite que dans ces maisons de santé, un réseau de santé soit aussi partie prenante, pour toutes les actions de prévention, parce qu'on pense aussi qu'à partir de ces maisons de santé, il n'y a pas seulement du soin qui doit se diffuser, mais aussi de la prévention. Alors évidemment, il y a quelques conditions. Nos conditions, c'est que les professionnels de santé s'engagent à exercer pendant 5 ans, qu'ils s'engagent à n'exercer qu'en secteur 1, sauf cas exceptionnel d'une double pratique, par exemple, quelqu'un qui est généraliste et qui est aussi homéopathe ou acupuncteur, ou je ne sais pas quoi. Qu'ils accueillent des étudiants en médecine et qu'ils utilisent, bien sûr, les nouvelles techniques de communication, mais ça, c'est tout à fait évident. Enfin, notre quatrième mesure, c'est de participer avec la RH aux équipements de télémédecine des hôpitaux périphériques. Donc, actuellement, il y a deux équipements qui ont été installés, un à Confolens, l'autre à Montmorillon, justement, à l'hôpital de Montmorillon. Pour permettre, parce qu'on pense que dans ces hôpitaux, il sera très difficile de recruter des radiologues, et donc pour permettre de transmettre les images radiologiques au CHU. Pour l'instant, au CHU, peut-être que dans quelques années, ce sera en Inde ou en Chine, ou je ne sais pas où, mais enfin, l'intérêt, c'est qu'elles soient interprétées rapidement. Voilà, donc très rapidement, ce que nous avons proposé avec... Alors, vous allez me dire, mais quels sont les résultats ? Alors, la formation des médecins, je vous l'ai dit, 53 médecins ont été formés donc, pour accueillir les stagiaires. 156 étudiants ont fait des stages en milieu rural. Alors, combien se sont installés ? Pour l'instant, pas beaucoup. Combien des étudiants formés se sont installés en milieu rural ? Il y en a très peu. Par contre, en revanche, il y en a pas mal qui font des remplacements. Et on sait aussi que la date d'installation est de plus en plus... tardive actuellement. Donc l'idée que les... Comment que... Alors actuellement, il y a un léger frémissement. Il y a quelques étudiants qui ont bénéficié de ce dispositif qui s'installent en milieu rural. Je dois dire que les départements ont aussi proposé des mesures à peu près identiques ou différentes. Par exemple, la Charente propose d'offrir une bourse à deux étudiants en médecine qui s'engageraient à s'installer en milieu rural. Ça fait déjà plusieurs années que cette proposition existe. Donc c'est une bourse de 30 000 euros par an pendant la durée des études pour s'installer en milieu rural. Pour l'instant, il n'y a aucun étudiant qui a souhaité bénéficier de cette bourse. Dans d'autres départements où ça existe, tous les étudiants qui ont bénéficié de la bourse préfère la rembourser que de s'installer en milieu rural. Le département de la Vienne vient aussi de prendre des dispositions qui sont des copier-coller des nôtres, de celles de la région. Mais bon, ça, moi, je trouve que si tout le monde fait des efforts pour... Ce que je pense quand même, c'est que je pense qu'à terme, il est très probable qu'on ne pourra pas faire l'économie de mesures un peu plus coercitives pour l'installation des médecins. Enfin, je parle des médecins ou des professions de santé. Ce qui s'est passé pour les pharmaciens il y a combien ? Il y a 30 ans, peut-être, après la guerre.
Pendant
la guerre, oui, c'est... Ouais, il y a 60 ans.
Pendant.
Je crois que...
C'est un peu vichiste comme disposition, mais ça marche toujours.
Je crois qu'on pourra difficilement en
c'était
faire...
C'était un peu pétainiste, mais ça marche encore.
En faire l'économie pour les autres professions de santé. Parce que je ne pense pas qu'on puisse continuer à laisser librement tout le monde s'installer là où il n'y a pas de besoin. Et voilà, donc très rapidement, moi je suis prête à répondre aux questions.
Merci aux intervenants de la table ronde et à monsieur Kerr pour sa présentation initiale. Donc, il nous reste une petite demi-heure pour discuter.
Je peux en rajouter une couche sur, je peux en rajouter un mot quand même dans tout ce qui est dit, notamment plus par Martine Daban, notamment sur la fin, même s'il est fait appel à un dispositif de 41-42, d'un gouvernement qui n'excellait pas par sa démocratie à l'époque. Mais pour l'ordre des pharmaciens, je veux dire, l'implantation un peu coercitive, comme tu disais, c'est vrai. Tout cela, c'est quand même aussi c'est de l'argent public, l'ensemble. On repose sur un financement quand même du système de santé, qui est un financement public. Et que les médecins devant moi me pardonnent, mais leurs préoccupations, je comprends parfaitement, de leurs épouses, du cadre de vie, des moyens de vivre, des études des enfants, de la plage au soleil plutôt que de la mine dans le Nord, c'est des choix d'ordre privé qu'ils font là. Donc moi, je suis tout à fait de ton avis qu'il faudra bien un jour avoir un système de régulation qui aille un peu plus loin quand même que ce qui est fait actuellement. Deuxièmement, sur le débat public-privé, nous sommes dans un système quand même double en France, entre les hôpitaux et les cliniques que l'on appelle privées ou commerciales, qui représentent 34% à peu près des lits de ce pays, et un des records d'Europe d'ailleurs, les Allemands sont à 24-25%. Je trouve que dans le débat public-privé des soins hospitaliers aussi, il faudra bien arbitrer plus qu'il n'est fait aujourd'hui et ne pas prendre des mesures comme les convergences, qu'on appelle convergences tarifaires, qui sont reportées à quelques calendes plus tard par la loi Bachelot. Pendant, on va faire converger le public vers les prix du privé, etc., privant ainsi. D'ailleurs, le public a bien d'autres missions que celle du privé commercial, de ressources importantes. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que le financement des actes de la double, de la tarification à l'activité, etc., parfait, on connaît bien, mais pas mal de centres hospitaliers, d'ailleurs, des nôtres, s'en sortent honorablement, cette affaire-là. Mais les missions d'intérêt général, les MIGS et MIGAC, qui sont toujours à la charge des centres publics, leur financement ne va pas croissant, hein, je vous signale. Alors, va même diminuant. Alors, on a des missions d'intérêt général qui sont, ce qui rapporte rien, quoi, excusez-moi du propos abrupt, mais c'est accueillir aux urgences, soigner les pauvres et miséreux, pas leur faire. Bon, effectivement, mission d'intérêt général, des addictions un peu prononcées, etc. Mais ça, le financement se réduit. Ce débat, il faudrait bien qu'il soit arbitré hors de chez nous, hors des territoires. C'est vraiment un débat entre l'assurance maladie, l'État, enfin le ministère de la Santé. Quoi. Ça fait des années que ça dure. On demande à ce que l'arbitrage soit fait là-dessus entre système public et privé. Excuse-moi, Martine.
Non, ce que je voulais préciser aussi, c'est qu'on a eu des rencontres avec les Québécois qui ont exactement les mêmes difficultés que nous, sauf que chez eux, évidemment, les distances sont... Quand on parle de... Le médecin doit faire parfois 200 km pour... Alors, ils ont aussi des propositions qui ressemblent un peu aux nôtres, c'est-à-dire plus d'incitation que de... Mais ils se posent aussi les mêmes questions, c'est-à-dire que au-delà de l'incitation, un jour, il faudra probablement passer à des mesures plus autoritaires.
Bon, on va passer, si vous voulez, au débat. J'aurais juste... Après, je vous passe la parole. Juste une deux petites questions. Une première remarque, c'est que dans la première intervention, vous avez vu qu'il était bon de faire partie d'associations. Donc, vous pouvez adhérer à Aspes. Et vous avez ici Gérard Inrang, qui est notre trésorier. Donc, ça vous donnera l'espérance de vie. Donc, n'hésitez pas. 15 euros seulement. En plus. Donc, n'hésitez pas. Je voulais juste poser une question donc à Monsieur Kerr pour son exposé où il apparaît, si j'ai bien compris, une chose, c'est que ce n'est pas les professionnels de santé qui sont les plus importants dans l'état de santé d'une population, hein, mais que ce sont d'autres facteurs qui interviennent, et en particulier donc le lien social ou tout ce qui tourne autour du lien social, le fait de vivre ensemble, de bien vivre ensemble, et les inégalités. Or, nous sommes dans un contexte où, d'après les sociologues, les inégalités de santé ont plutôt tendance à augmenter, où le lien social a plutôt tendance à se distendre. Est-ce que cela se traduit actuellement en France par une diminution de l'espérance de vie ou des choses de ce type-là, ou au contraire, est-ce que l'espérance de vie continue toujours à grimper malgré ces deux éléments qui seraient défavorables pour l'espérance de vie.
Ça, c'était la question. C'est pas la question. C'était la problématique de Putnam. Je l'ai pas cité, mais c'était en gros de dire c'était mieux avant aux États-Unis. Il y avait plus de relations sociales dans la société des années 60 que dans la société des années 2000. Et ça va avoir des conséquences également sur l'état de santé. C'était une de ces problématiques de dire il faudrait revenir à plus de vie communautaire et regarder les états où la vie communautaire a su survivre. Et c'est l'exemple du bowling, de dire là où on continue à jouer au bowling, c'est bon globalement pour la santé des personnes. Est-ce qu'en France, il y a un délitement du lien social ? C'est pas certain. Hein. Quand on regarde ne serait-ce que l'adhésion aux associations, le taux d'adhésion aux associations ne diminue pas en France. Ce qui change, c'est le mode de participation aux associations. Ce que je veux dire, c'est que selon l'indicateur que l'on choisit, on peut avoir des résultats très différents. Si on prend simplement le taux d'adhésion aux associations, il n'y a pas de diminution du lien social. Si on prend, par contre, si on considère le nombre d'associations auxquelles on est adhérente, ou le nombre de temps qu'on consacre aux associations, là, on aura peut-être d'autres effets. Donc ça, c'est la première chose. Le choix de l'indicateur n'est pas forcément évident. Deuxièmement, l'espérance de vie, enfin, je l'ai dit très rapidement, l'espérance de vie, elle progresse partout. Il n'y a aucune région, y compris le Nord-Pas-de-Calais, l'espérance de vie continue à progresser, et heureusement. Les gains, ils continuent à se faire dans toutes les régions et dans toutes les catégories sociales. Par contre, ce qu'on constate, c'est que les écarts continuent à se creuser entre les extrêmes. Tout le monde est gagnant, mais il y en a qui gagnent beaucoup plus que d'autres en termes d'espérance de vie. Il y a des régions qui progressent plus vite que d'autres, il y a des catégories sociales qui progressent plus vite que d'autres, il y a des professions qui progressent plus vite que d'autres, etc. Donc on ne constate pas une réduction des inégalités, mais un très léger accroissement des inégalités. Mais globalement, il n'y a quand même pas de perdants. C'est déjà, enfin, jusqu'à présent. Ce qui se passera dans 10 ans, ça, ce sera peut-être une autre question. On reparlera des effets de la loi, peut-être, de la loi actuelle, peut-être dans 10 ans. Mais jusqu'à présent, les effets sont plutôt positifs. Dans les études concernant les offreurs de soins, c'est vrai que dans les études, j'en ai très très peu parlé. Et alors, il y a d'autres études là-dessus, justement, sur le lien entre le nombre de professionnels de santé et les recours aux soins, les dépenses de santé, etc., des relations qui sont plutôt positives entre les deux, mais dans la plupart des études que j'ai citées, soit on l'omet complètement, on n'en parle pas, soit sur certaines, on les annule. Hein. Dans une des études que j'ai citées, ils ont pris ça en compte et ils ont annulé l'effet offreur de soins. Ils l'ont annulé, ils l'ont neutralisé. Hein. Ça dépend un petit peu des études. Juste une chose par rapport à ce qu'a dit Madame Daban, moi ce que j'ai peur dans l'incitation, c'est qu'à force, ça conduise à une concurrence entre les territoires. L'exemple, c'est ce qui s'est passé en Allemagne à propos de l'enseignement. Je ne sais pas si vous avez vu, entre la région de Bavière et je ne sais plus quelle autre région allemande, ils ont essayé de débaucher des enseignants à travers des primes incitatives. On peut craindre qu'entre les territoires, alors elle a juste cité un petit peu les départements et les régions, mais encore là on reste sur le même territoire, mais qu'entre régions, entre départements, il y a une course à l'incitation. C'est un des risques de l'incitation par rapport à la coercition. Hein. C'est qu'il y a une concurrence qui s'installe sur l'installation.
Pour l'instant, on n'a pas capté beaucoup d'étudiants
d'extérieur. Oui, mais il y a peut-être des régions qui sont plus attractives et qui ont plus de moyens et qui vont les attirer. Non, mais on est sur un... Il y a, mais des communes qui se battent, ça arrive.
Marche. Oui, bonsoir, je suis Francis Chabot, donc j'avais une question à poser à M. Kerr sur mon intervention, puis une question à poser à tout le monde, en fait, à tous les intervenants. Donc, est-ce que je pose les deux questions en même temps ou... Bon. Alors, la première question, c'était, j'ai trouvé votre exposé très, très intéressant, mais je n'ai pas, par la suite, vu quelles étaient les relations que vous pouvez faire entre vous, ce que vous avez dit, qui était fort intéressant, mais comment est-ce que vous, j'avais envie de vous demander, comment est-ce que vous le reliez aux interventions plus, disons, plus, moins théoriques, plus, plus concrètes de l'aménagement du territoire en ce qui concerne la santé. Est-ce que vous avez des idées précises par rapport à ça? Est-ce que c'est applicable dès maintenant ou est-ce que vous le voyez applicable à plus long terme? L'autre question que je voulais poser était beaucoup plus générale. C'était concernant le problème de la démographie des professions de santé. Je me demandais, ayant travaillé sur la question, parce que je suis ancien directeur de l'Observatoire régional de la santé, donc j'avais travaillé en particulier sur la notion de besoin de santé. Je m'étais aperçu que ce n'était pas forcément très facile de définir ce qu'on appelle un besoin de santé, et en particulier un besoin de santé territorial. Et en fait, on voit que selon les pays, par exemple, il y a des réponses très très différentes qui peuvent marcher avec des densités de professionnels complètement différentes et avec des organisations différentes. Alors, ce que je me demandais, c'est est-ce que vous avez raison ou est-ce que vous avez tort quand vous... Puisque finalement, nous, on avait fait un historique sur 100 ans de la région, sur l'offre de soins, pas sur les besoins, mais sur l'offre en médecins. On s'était aperçu que même quand il y avait des densités très faibles, finalement, de médecins, des densités territoriales, on avait fait ça par canton. On s'est aperçu, il y avait 100 ans, il n'y avait pas des médecins partout, mais finalement, on arrivait à ce qu'il y en ait partout. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas de médecin, on mettait des officiers de santé à la place. On y arrivait très bien avec des types qui avaient 2 ou 3 ans d'études, bon, qui étaient plus ou moins des infirmiers. Enfin, on ne savait pas exactement ce qu'ils étaient, s'ils étaient chirurgiens des champs de bataille ou autre chose. Mais bon, ils arrivaient à combler à peu près les trous. Alors, à l'époque, il n'y avait pas la sécurité sociale, puisque de toute façon, les médecins avaient besoin de territoires plus grands pour pouvoir vivre, en quelque sorte. Ils avaient besoin d'avoir beaucoup de patients pour pouvoir les nourrir suffisamment. Mais finalement, quelle que soit la période, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu un comblement des trous. Là, on a eu une démographie qui n'a jamais été aussi florissante, si je puis dire, en ce qui concerne les médecins. Donc on prévoit effectivement que ça va baisser. On voit qu'il y a des endroits où il y a des problèmes. Je me demande vraiment s'il y a une spécificité du problème de la démographie des professions de santé par rapport au problème plus général de l'aménagement du territoire. Est-ce que c'est un problème uniquement d'aménagement du territoire ou est-ce qu'il y a vraiment un problème spécifique à la santé? Et d'autre part, comment on résout ce problème de savoir quand est-ce qu'on est à la bonne adéquation entre offres et besoins?
Je ne sais pas si c'est vraiment la réponse à cette question. Mais parallèlement à nos mesures incitatives, on a fait avec la RH, on a procédé à une enquête de satisfaction de la population concernant l'accès aux soins, justement. Et donc ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites, hein, c'est-à-dire que... Alors, elle a été faite par l'IFOP, donc on ne peut pas... parce que nous accuser d'avoir fait des chiffres, donné des chiffres qui nous arrangent ou qui ne nous arrangent pas, enfin bon. Ce qui ressort de cette étude, c'est que 89% de la population du Poitou-Charentes est satisfaite ou très satisfaite des soins reçus en hôpital ou en clinique quand ils ont eu affaire à l'hospitalisation publique ou privée dans l'année précédente. Et ces chiffres sont encore plus importants dans la Vienne, 94%. Globalement, les Picto-Charentais sont très satisfaits de l'offre de soins qu'ils ont, qui se soit d'ailleurs en ville, ou avec des différences évidemment dans les communes, dans les petites communes. Ils ont plus de difficultés à trouver un médecin généraliste la nuit ou le week-end, etc. Mais globalement, les Picto-Charentais sont effectivement très satisfaits de l'offre de soins qu'ils ont dans la région. Et le seul bémol, c'est effectivement sur un fort recours aux urgences pour les gens qui habitent dans les territoires ruraux par absence de garde, enfin de garde médicale le week-end et la nuit. Mais c'est le bémol.
Oui, mais en même temps, quand on fait les enquêtes, nous on avait fait les enquêtes urgences, hein, on a vu que si on prenait des critères médicaux, même sans prendre des critères médicaux, d'ailleurs, si on prenait chiffrait combien il y en avait qui sortaient sans avoir aucun soin, il y en a 70%. Donc si vous voulez, c'est toujours le fameux problème entre la demande ressentie, le besoin médical, donc les urgences. Nous, on avait constaté qu'il y avait un différentiel de 1 à 10 selon les cantons d'habitat dans le recours aux urgences.
Ouais.
Donc, si vous voulez, ça dépend beaucoup du fait que les gens soient dans un milieu où il y a beaucoup d'offres, ils ont l'habitude d'aller facilement à l'hôpital.
Ils consomment plus.
Ils ont moins. Ils ont en fait le besoin. Ils
consomment plus, on vieillit plus.
Oui.
Il y a un vieillissement. Une habitude de consommation plus importante.
Oui, moi, Pierre Sureau, je revenais sur un peu ce qu'a dit Francis, c'est-à-dire le lien entre la première partie et la deuxième partie, qui paraît pas évident, effectivement. On fait un peu dans la deuxième partie comme si l'offre de soins, l'accès aux soins était l'essentiel par rapport à la santé, puisque c'est le titre un peu de la soirée, ce qui est normal compte tenu de la compétence des gens qui interviennent, alors qu'effectivement on a vu dans un peu au moins dans l'intervention de Gilles Kerr que effectivement l'état de santé et la maladie c'est quelque chose de multifactoriel et que la médecine en tant que telle ne joue que parmi beaucoup d'autres facteurs peut-être souvent beaucoup plus importants. Alors bon, ça c'est une première réflexion. La deuxième, c'est que je voulais demander à Gilles Kerr. Moi, j'ai l'impression quand même que l'accent mis depuis un certain nombre d'années sur les inégalités territoriales de santé pourrait être un bon moyen de masquer les inégalités sociales, tout court, dont la santé est une résultante, hein, inégalités socio-économiques, hein, disons, et dont la santé est la résultante, puisque en réalité, tous les facteurs dont tu as parlé, finalement, on les retrouve aussi au niveau socio-professionnel, hein, la sociabilité, par exemple, etc. L'adhésion à des associations est très étroitement liée au statut social. Hein, la réception d'amis, etc. Enfin, on retrouve ça dans toutes les études de l'INSEE. Alors, je me demande si c'est beaucoup plus neutre, finalement, de parler d'inégalité territoriale que de parler d'inégalité sociale. Alors, je me demande s'il n'y a pas... Alors, dans le même sens, je me demande si la neutralisation, si dans les travaux de l'IRDES et du CREDES en particulier, la neutralisation des effets des autres variables pour démontrer l'influence, une influence territoriale spécifique, si cette neutralisation reflète une vraie réalité. C'est-à-dire que si, par exemple, un ouvrier du Pas-de-Calais est équivalent à un ouvrier de Charente-Maritime. C'est ce qu'on fait, en fait, hein, c'est ce qu'on suppose dans ce genre de neutralisation. Enfin, des choses comme ça, hein, je pose la question.
Plusieurs choses, oui, pour faire le lien avec la question. Je crois que moi, j'ai traité des inégalités de santé et qu'ensuite, on a traité des inégalités de soins. C'est un des éléments, c'est ce qu'a dit Pierre Sureau, c'est un des éléments des inégalités de santé. Ensuite, dans les inégalités de soins, il faut voir également ce qui est du curatif de ce qui est de la prévention. De cette structure-là, il peut y avoir aussi des différences dans les territoires. Et ensuite, la deuxième grande différence, c'est que moi j'ai traité région, département à grande louche, et que là on est rentré dans le détail, c'est que les différences intra-départementales entre cantons, etc., sont beaucoup plus fortes que les différences entre région et département. Donc je l'ai dit, je suis plutôt macroéconomiste, donc je reste à un étage supérieur. Si on descend à l'étage vraiment très fin, en effet, les inégalités de soins vont avoir peut-être des conséquences plus importantes. Ce que j'aurais aussi souligné, c'est qu'on est dans le cadre d'une attractivité globale des territoires. C'est-à-dire que l'offre médicale participe aussi à l'attractivité économique et résidentielle du territoire. Juste un exemple, parce qu'il est bateau et qu'on l'a ressassé. Quand Toyota s'est implanté à Valenciennes, l'une des premières choses qu'ont fait les Japonais, c'est aller visiter... Alors, je ne sais plus si c'est le CHU de Lille ou alors si c'est l'hôpital de Valenciennes, mais pour voir si leur cadre japonais serait bien soigné. Et c'était un élément de l'attractivité. Et donc, quand on parle de l'installation, le problème des conjoints, des médecins, etc., c'est circulaire. C'est-à-dire, s'il n'y a plus d'hôpital, il y aura donc une population qui va être vieillissante, il n'y aura plus d'école, et donc il y aura encore une difficulté d'installer des généralistes, etc. Donc, on est vraiment dans le cadre d'une attractivité globale. Alors, Sur les études de l'IRDES, moi je suis complètement d'accord. Hein. Je crois que progressivement on veut gommer les inégalités sociales, les inégalités socio-économiques, et qu'on veut rentrer sur c'est ce que j'ai dit à la fin, sur l'aspect responsabilité. C'est les gens dans leur vie, dans leur vie privée, à s'organiser mieux, à manger mieux, à être plus en relation avec les autres, à sortir plus, etc. Ils amélioreront leur santé et on n'a pas besoin de leur donner une aide financière, on n'a pas besoin forcément de leur mettre un médecin à côté. Sur le problème de la neutralisation, je ne suis pas allé regarder suffisamment en détail sur justement le problème des corrélations entre les variables. Quand on dit la participation à l'association a une grande influence, et en effet, moi, pour bien connaître le secteur, la participation aux associations, elle est corrélée au diplôme, elle est corrélée au revenu, elle est corrélée à la situation de famille très fortement. Même chose, la participation politique est très corrélée à ces variables-là. Et donc, on dit on neutralise d'un côté le revenu, mais de l'autre côté, on prend en compte une variable qui dépend de ces variables-là. Et donc, il y a une corrélation entre les deux variables, et je ne suis pas sûr que... Enfin, normalement, c'est quand même des économètres, ils ont dû étudier ça, mais bon, là, il faut vraiment rentrer, c'est comme partout, hein, le diable est vraiment dans le détail. Hein. Donc, il faut vraiment aller... Voilà.
Bon, une dernière question pour peut-être respecter les horaires, et ensuite, notre trésorier Gérard fera la conclusion.
La question va être courte, c'est surtout quelques remarques. Moi, j'ai apprécié la différence d'intervention avec, j'interprète comme ça, l'intervention de Gilles Clerc, plus sur des facteurs favorisant la santé, plutôt de dimension sociale. Alors, c'est vrai que s'il y avait eu plus de temps, j'aurais bien aimé voir, je ne sais pas si vous les avez, mais des cartographies des facteurs de santé ou au contraire ayant un impact plutôt négatif sur la santé. Je me dis peut-être que dans le Nord-Pas-de-Calais, où il y a pas mal de concentration d'industries, d'entreprises, ça a un impact. Peut-être que les régions rurales avec des pesticides ont un impact. Peut-être que les zones où il y a plus d'incinérateurs ont un impact sur le moyen terme, etc. Bon. Et puis la deuxième partie, alors c'est vrai que ça, c'est la dominante soin avec l'esprit ou la vision plutôt curative. Et même le système de santé, de sécurité sociale est beaucoup plus axé sur le curatif que sur le préventif. Et bon, ça me pose un peu question aussi. Parce que là, on va être toujours à s'interroger comment on soigne les gens et pas assez sur qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'ils soient mal fichus. Et madame, en tant que représentante élue régionale, j'ai envie de dire... gaffe à ne pas rester sur des critères essentiellement financiers pour attirer les gens, attirer les médecins. On peut créer, il y a des chasseurs de primes chez les agriculteurs, hein, je connais un petit peu ce monde-là, il peut y avoir après des chasseurs de... Alors je suis un peu caricatural parce qu'il reste 3 minutes, mais il peut y avoir des gens qui vont être motivés que par le côté financier, si on fait apparaître cette carotte des 30 000 euros. Et non, peut-être qu'il faudrait... Non, mais je vais finir quand même avant. J'ai envie de rappeler qu'il y a des moyens de faire évoluer des comportements et des incitations sans que la collectivité territoriale sorte d'argent. Je vous donne 2 exemples dans 2 autres domaines. Aux Pays-Bas, les personnes qui veulent agrandir ou construire une maison auront un permis de construire que si elles mettent au minimum 1/4 de la surface de la toiture en panneaux solaires. S'ils ne les mettent pas, ils n'ont pas de permis de construire. Ils ne construisent pas. Alors qu'ici, on est plus à se dire, on va mettre une offre de prime ou un truc d'impôt sur... Bon, ça, c'est un exemple. Et un autre, en Suisse, pour obliger les collectivités locales à avoir une qualité d'eau correcte au-dessous des normes, la collectivité locale est responsable de la qualité de l'eau potable. Et si elle est au-dessus des normes, elle n'a pas le droit de délivrer des permis de construire. Donc, les collectivités locales font très gaffe à où elles prennent l'eau pour avoir de l'eau potable et pour la distribuer. Parce qu'elles ont envie d'avoir des constructions nouvelles. Et ça, ça ne coûte rien à la collectivité, ça ne coûte pas aux contribuables. C'est une incitation. Et c'est vrai que moi, je suis un très mauvais client des médecins, parce que j'y vais tous les 3 ans peut-être, mais je me pose aussi la question de comment on rend compatible le fait que les médecins sont des tout petits entrepreneurs privés, rendant un service public. Et je constate que le prix des consultations, me semble-t-il, augmente plus vite avec peu de conditions assumées en contrepartie sur la réduction de la quantité de médicaments, etc. Parce qu'il y a peut-être une tendance aussi à la marchandisation de la médecine. Et la question que j'avais envie de poser, c'est... Bon, alors, il y aura un autre débat sur les cancers, mais pour mieux repérer les causes de problèmes de santé, est-ce qu'il y a un registre du cancer au niveau régional, au niveau départemental ou au niveau national? Et voilà, quoi. Travailler plus sur la prévention.
Oui, oui, tu peux.
Donc, il y a des registres du cancer. Il y a, quoi, une vingtaine de registres départementaux du cancer en France. Et au niveau Poitou-Charente, on a mis en route, on est en train de mettre en place un registre régional du cancer. Et ça se met en place depuis environ un an. Donc, on aura un registre du cancer. Voilà. Or, non, je dis rien de plus.
Je voudrais quand même bien préciser que ce que j'ai dit, c'est bien ce que vous dites aussi. C'est-à-dire que nous ne proposons pas d'incitation financière pour l'installation des médecins. C'est pas du tout nous, c'est le Conseil général de Charente. Et que ces incitations ne marchent pas. C'est-à-dire qu'il a été essayé dans différents départements de donner 1 € de plus à consultation en milieu rural. Ça ne marche pas. De faire des bourses d'études, ça ne marche pas. Ce n'est pas les incitations financières qui marchent pour ça. Donc,
En Allemagne, je crois que c'est le Conseil de l'Ordre des médecins, comme les pharmaciens en France, qui autorise les médecins à s'installer dans une région où il y a des médecins et qui ne les autorise pas. Donc c'est autogéré par le Conseil de l'Ordre.
Avant de passer la parole au trésorier, j'ai oublié tout à l'heure de dire que j'habite dans le canton de l'Île-Jourdain, à Kyo très exactement, donc dans le sud-Vienne, Montmorillon, et que l'hôpital de Montmorillon, le petit hôpital de Montmorillon, a une très bonne réputation, à la fois en termes de soins et en termes d'accueil, ce qui n'est pas rien.
Moi, j'aurais ton âge, j'aurais dit la même chose, parce que c'est vrai que tu risques de plus utiliser l'hôpital que la crèche. Je te connais, Pierre, je te connais. Donc, on m'a demandé de conclure. Comme j'ai rien dit, je vais faire une petite remarque, parce que ça concerne tout le monde d'entre vous. Vous savez qu'en ce moment, on est en train de valider ou de finaliser le programme national santé-environnement.
Et que,
à la suite du programme national santé-environnement, il sera décliné en programmes régionaux. Et chaque région aura à intervenir, et certains d'entre vous, certainement, seront sollicités sur le programme régional. Ce que je voulais dire par rapport à ça et par rapport à ce qu'ont dit nos intervenants et au territoire, c'est qu'aujourd'hui, dans le programme national santé-environnement 2, dans les attendus de départ, il est dit « nous ne nous occupons que de problèmes collectifs ». Les comportements individuels ne font pas partie du programme national santé-environnement. Dans les problèmes collectifs, il y a l'alimentation. Mais il y a 10 ans, l'alimentation, ce n'était pas un problème collectif, c'était un problème individuel. Et aujourd'hui, au vu de ce qu'on a pu entendre sur les territoires, sur les déterminismes et tout, moi j'ai eu l'occasion de, puisqu'on nous a demandé notre avis, j'ai transmis, enfin le Conseil économique et social entre autres a transmis un avis au préfet sur ça, et on a demandé si on pouvait faire des études pour savoir qu'est-ce que c'était qu'un problème individuel ou un problème comportemental qu'on rejette, et donc avec culpabilisation d'un individu, montrer du doigt, et puis il mange pas comme il faut, il fume, il boit. Et qu'est-ce que c'est qu'un problème collectif? Et on a demandé à ce que ça soit étudié plutôt par catégorie socio-professionnelle, par CSP. Mais quand une catégorie socio-professionnelle, dans sa grande majorité, a un comportement qu'on peut juger comme comportement individuel non conforme avec un bon état de santé, est-ce qu'on le prend pour un problème collectif ou pour un problème individuel? Et je crois que c'est important, parce que ce qui nous a été dit là sur les territoires, ce que chacun voit, c'est que aussi, et ce qu'on fait nous à ASPES, c'est toujours d'essayer d'aller du collectif à l'individuel, de l'individuel au collectif, et de voir comment les choses peuvent se lier ou se rencontrer entre elles. Alors maintenant, il me reste à remercier très chaleureusement l'ensemble des intervenants, et c'est vrai qu'on essaiera de les ressolliciter et tout, et puis de vous informer que le programme d'ASPES du second semestre est déjà sur les rails, donc on n'a pas les dates, puisque c'est Mendes France qui nous donnera les dates. On reprendra la formule qu'on a prise sur les territoires, c'est-à-dire qu'on aura deux conférences à un mois ou deux d'écart, et les deux conférences seront sur des thèmes communs qui seront santé et immigration. Donc on essaiera de construire, là encore, on a commencé un petit peu, un cycle de deux conférences complémentaires l'une de l'autre, comme l'ont été celles d'il y a un mois et demi et celles d'aujourd'hui. Et puis donc, si vous voulez gagner un petit peu d'espérance de vie, vous pouvez adhérer à ASPES, c'est 15 € par an. C'est une association qui a un fort budget, je peux vous en parler. Et on a besoin au moins de 5 à 10 adhérents pour équilibrer notre budget annuel. Donc je vous remercie, et puis écoutez, à la prochaine fois, et suivez les dates.
Le premier forum régional Objectif Zéro Pesticide avec le volet Santé Environnement.
Il y a des écrans publicitaires.
Oh, bien. Bon.
Eh ben, c'est pas vrai, ça.
Oui.
Parce que moi, au PS, depuis que j'ai adhéré, ça me rend malade.
Il semblerait que ça soit
souhaité qu'éventuellement, on
réussisse le terme en espérant que les collègues. 4 à 5 ans.
On est sur d'autres. Pardon.
C'est-à-dire que dans les facteurs techniques, il faut le signer. Tout le monde gagne le travail.
Parce que dans les années
80,
en fait, on est sur une autre problématique.
Parce que moi, j'en ai juste dit
terre à terre.
C'est quand même. Le site, maman, je me suis dit. Parce que moi, j'ai reçu que ce site, merci.
Tout le monde est convaincu que ça, je l'ai. Du bien fondé, du projet. Mais en fait, on est sur d'autres considérations.
Parce que ce que Roland nous avait transmis, nous avait dit.
Monsieur
Pavillon, Roland, il l'avait reçu.
Oui, je pense que c'est la dernière fois. Il est là.
On connaît
monsieur
Boucherot.
Boucherot.
Julien Militant.